23h45. Beuh. Le premier de l'an a été une journée d'horreur. N'arrive pas à croire que j'ai une fois encore commencé année dans le lit à une place chez parents. À mon âge, c'est trop humiliant. Si je m'en fume une, à la fenêtre, est-ce qu'ils le sentiront ? Aujourd'hui, nous allons parler du journal de Bridget Jones dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi, si tu peux.
Docteur Lecter, je m'appelle Clarisse Darry. Est-ce que je peux vous parler ?
Tu es un sorcier, Harry.
Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
Vous avez toujours été le gardien.
C'est qui le con qui a écrit ça ?
William Shakespeare.
Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler du journal de Bridget Jones, un roman de Helen Fielding paru en 1996 et qui a été adapté par Sharon Maguire en 2001. Pour parler de ce titre, je suis aujourd'hui avec la team Bridget, Pascal.
Salut.
Jeanne.
Salut.
Et Marianne.
Coucou.
Alors les filles, comment est-ce que vous avez découvert Bridget Jones ? Est-ce que c'était d'abord le livre ou d'abord le film ? Et je vais commencer par Marianne.
D'abord le film, je savais même pas que c'était un livre en fait, pendant très très longtemps. Dans mes binge-watching de comédies romantiques des années 90-2000 quoi.
Bien sûr.
Et ensuite le livre à l'occasion de ce podcast.
Ok. Et toi, Pascal ?
Eh ben, tout pareil. Voilà.
Tu savais pas non plus que
vraiment,
c'était un livre ?
Vraiment, tout pareil.
J'ai su que c'était un livre, notamment à l'occasion du troisième film, mais je l'avais pas encore lu.
Okay.
Donc, je l'ai lu pour l'épisode.
Ok. Et toi, Jeanne ?
Eh ben, parcours classique, c'est tout pareil que les filles.
C'est dingue.
Je connais le film par cœur, je le regarde depuis des années. C'est voilà, dans mes classiques aussi de comédie romantique. Et j'ai su que c'était des bouquins quand le 3 est sorti, puisqu'il y a eu choc au moment de la sortie du troisième roman.
Mm.
Et j'ai lu le bouquin pour le podcast.
Alors, je vais être vraiment très solo parce que j'ai lu le livre des dizaines de fois dans ma vie.
Incroyable.
Moi, je l'ai découvert quand j'étais ado, ben, sûrement l'édition France Loisirs de ma mère, voilà, qui avec moi, pour je ne sais quelle raison, je lui ai encore voulu quelque chose. Et oui, je l'ai lu plusieurs fois. Enfin, genre, quand je l'ai lu, j'avais genre 14-15 ans, j'ai trouvé ça énormissime. Enfin, c'était vraiment très éloigné de ce que je lisais à l'époque. Twilight, pour ne pas citer son nom. Ça m'a un peu chamboulée.
N'aie pas honte de ton passé, Victoire.
Voilà. Je n'ai absolument pas honte. Et oui, j'avais déjà vu le film. Je l'ai vu aussi plusieurs fois parce que c'est quand même un grand film culte des années 2000. Voilà, donc je me sens un peu solo en face à vous. je me sens un peu jugée. Bref. Parlons du livre. Donc, le journal de Bridget Jones, en VO Bridget Jones Diary, est un roman d'Helen Fielding paru en 1996. Donc, pour présenter Helen Fielding, donc c'est une Anglaise, elle possède un diplôme d'anglais, par ailleurs, et elle a travaillé dans le journalisme télévisuel durant quelques années avant d'écrire son premier roman, qui s'appelait Cause célèbre, qui n'est pas forcément très connu aujourd'hui. Elle a été, durant un temps, point gossip, la petite amie du scénariste Richard Curtis.
Ah.
Voilà, qui est l'auteur, entre autres, bien sûr, et réalisateur de 4 mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Good Morning England, et Il était temps.
Et il est scénariste sur le film aussi.
Exactement, de Bridget Jones, ouais. Et donc, en tant que journaliste, Fielding, elle évoquait régulièrement aussi dans ses colonnes l'obsession de la société contemporaine avec les magazines féminins comme Cosmopolitan, et elle fustigeait certaines tendances en Angleterre. Donc, les histoires de Bridget Jones sont d'abord publiées sous forme de colonnes hebdomadaires dans les journaux The Independent et The Daily Telegraph en 1995 et 1996. Et comme ces chroniques avaient énormément de succès, elles ont été transformées en romans grâce à l'éditeur britannique Picador. Pascal, est-ce que tu peux nous faire le résumé de Bridget Jones ?
Avec plaisir. À presque 30 ans, Bridget Jones cherche l'homme de sa vie. Mais pas si simple quand on est une femme indépendante à Londres. Elle fume, elle boit, elle compte ses verres, prise et perte de poids dans son journal, et nous y raconte sa vie. Elle fantasme aussi sur son patron, qui n'est qu'un coureur de jupons. Mais verra-t-elle un jour d'un autre œil le fameux Mark Darcy, que sa mère veut absolument lui refiler depuis des années ?
C'est bon, j'adore ce
résumé. J'adore.
Donc oui, on suit les pérégrinations de Bridget, trentenaire, célibataire à son grand âme. Et comme effectivement le livre il est écrit sous forme de journal, on a vraiment déjà une écriture à la première personne, d'un point de vue chronologique et avec des entrées, donc avec des dates. Donc ça commence par ses résolutions de la bonne année. Et déjà, là, tu vois un petit peu à quoi ressemble le personnage. C'est que c'est vraiment genre fumer moins, boire moins, ne pas fantasmer sur mon patron, ne pas m'attacher de connards et d'enfoirés affectifs. Donc déjà, tu vois un peu le personnage. Et effectivement, la première scène, elle est chez ses parents. Et c'est le nouvel an. Et bon, clairement, sa vie n'est pas...
Au top.
Comme elle voudrait que ce soit, en tout cas.
Non, et en plus, elle se fait un peu humilier parce que ses parents, surtout sa mère, est un personnage un peu à part entière, voilà, qui est tout le temps « Alors, Bridget, je vais te caser et tout. » Il y a l'oncle Geoffrey qui est en fait un ami de ses parents qui lui touche les fesses, qui lui fait à chaque fois « Alors, les amours !» Voilà, c'est un peu le côté, le gros cliché de la célibataire qui fait la célibataire endurcie et qui le vit très mal. Elle est présentée dès la première scène à un certain Marc Darcy qui lui paraît plutôt BG. Même s'il a un look...
Il a un pull de Noël.
Voilà.
Alors, non, dans le livre, il n'a pas un pull de Noël. C'est un pull jacquard.
Oui, ouais, un pull jacquard. Oui, couleur chandard.
Voilà. Oui, un pull de Noël.
Donc, mais... en couleur qui ne va pas ensemble.
Fraîchement divorcé, oui. Qui est là pour peut-être combler la vie de Bridget, selon sa mère et la meilleure pote de sa mère.
Voilà. Mais malheureusement, Bridget le trouve tout de suite très hautain.
Condescendant.
Condescendant, en désagréable.
Fait, la première question qu'il lui pose, c'est quel livre avez-vous lu récemment? Et du coup, elle panique un peu, elle veut essayer de faire classe, et en fait, elle sort un livre qu'elle n'a pas lu, et il commence à lui en parler, et elle panique et elle s'esquive.
Voilà.
C'est pas une relation qui...
Bon, sachant qu'elle, quand même, elle travaille dans l'édition. Hein, dans...
Oui.
Donc, non, mais ça, on y reviendra. Travaille dans l'édition, quand est-ce qu'elle travaille, cette personne?
Non, mais en plus, moi, j'ai adoré, c'est qu'elle fait une comparaison au fait que quand tu travailles dans l'édition, t'as pas forcément envie de lire quand tu ne travailles pas.
Mmh. Alors ça c'est vrai, hein, je suis désolée, hein, mais moi j'ai du mal à lire.
Ah ouais?
Ah ouais.
Mais c'est parce qu'elle est éditrice.
Moi je suis, oui voilà, ouais. Je lis toute la journée. Donc,
nous c'est pas pareil.
Ouais, moi c'est pas pareil. Ouais.
Non, ouais. Quand j'ai lu ça, j'étais genre, oui, c'est vrai.
Mais elle, après, elle est pas éditrice.
Bah,
mais
si, on dans le livre, je crois qu'elle est assistante d'édition.
Oui. On sait pas ce qu'elle fait comme.
On sait pas exactement ce qu'elle fait.
Mais
ouais.
Du coup, bon, on peut comprendre.
Ouais.
Oui.
Enfin, moi je la comprends en tout cas. Tu n'es pas ça, Bridget.
Non, mais elle, du coup, elle pourrait dire ça à Marc Darcy, au lieu de mentir oui, pour vouloir l'impressionner.
Tout de suite, on comprend que Bridget n'est quand même pas très débrouillarde.
Elle non, est un peu gaffeuse.
Elle est un peu gaffeuse, elle est un peu teuteux, hein, parfois. Oh faut dire.
Attends, elle a attendu.
J'adore le mot teuteux.
Cinq minutes c'est de l'épisode voilà. Avant que Pascal commence.
Le clash.
Non, mais on l'adore, mais voilà, parfois on a envie de la secouer, elle est quand même... Parce que finalement, sa vie, objectivement, n'est quand même pas si nulle. Elle habite à Londres, non, elle a un taf dans une maison d'édition, elle a des potes qui ont l'air hyper
mais
cool,
oui.
Elle fait des soirées, elle va boire des verres, mais elle n'a pas trouvé l'homme de sa vie.
Oui. Bon.
Bah, elle se met dans des situations où tu sais pas comment elle arrive. Elle attire un peu la merde. Enfin,
bah oui.
Non mais voilà, elle pourrait très bien sortir de ces situations, mais non, elle y va et elle peut-être baissée. Et genre, tu te dis, mais non, passe à autre chose.
Oui, c'est vrai que...
Je trouve avec un peu de complaisance, parfois, dans un son peu. Malheur de... Du coup, elle peut se plaindre parce qu'il lui arrive des trucs, mais elle le cherche un petit peu quand même, parfois.
Bah, il y a un moment dans le livre, elle dit, texto, je suis tellement contente d'être au centre d'un drame.
Oui, oui, voilà. Non, alors après, la drama queen en moi comprend tout à fait. J'adore être au centre des drames.
Enfin, là, c'est quand même son meilleur ami qui est porté disparu.
Mais voilà, bon, c'est très grave, quand même.
D'ailleurs, ces trois amis, du coup, qui sont un peu chacun des caricatures, genre, oui. T'as la meuf qui est en couple avec un gars, mais qui, en fait, arrête pas de faire de la larrée, concrètement. Mmh. Enfin, c'est un peu on and off, en mode, lui, il veut pas s'engager, donc c'est Richard le Cruel.
Il fait de l'enfoirage affectif, comme
il dit. L'enfoirage affectif. En anglais, c'est Vile Richard.
Ah, Richard,
c'est pas mal.
J'ai bien aimé Richard ouais. Le Vile.
Ça fait un peu ouais. Méchant ouais. De
Tu vois, Cruel, ça fait un peu... Cruel, ça fait un peu grandiloquent, tu ouais. Vois. Tandis ouais. Que Vile, ça fait vraiment genre...
Limace.
Ouais, limace. Exactement. Voilà, t'as ça, t'as bien sûr Sharon qui est la féministe hystérique.
Un peu enragée, ouais.
Un peu.
Eh ça, c'est vraiment le personnage qu'on adore.
Tout des connards.
Tout des connards. Voilà, qui elle, du coup, est célibataire, mais est très contente d'être célibataire. Et parce que
c'est elle qui lit beaucoup de livres de développement personnel aussi oui.
Non, c'est Jude.
Ah, c'est Jude.
Ah, je crois que c'était elle aussi.
Okay. Non, c'est Jude qui, a tout le temps, qui est tout le temps à fond sur le feng shui et tout.
Ah,
ouais. C'était l'époque. Et t'as le troisième pote, bien sûr, qui est Tom, qui est gay, qui complète très bien ce quatuor et qui, lui, est tout le temps aussi avec un gars pas forcément très recommandable, Jérôme.
Il a un surnom,
mais je me souviens plus.
Bon, c'est pas un personnage très important après. Et on a du coup Daniel Cleaver qui est le patron de Bridget sur lequel elle fantasme sans vergogne et qui va commencer à lui envoyer des petits messages sur MSN.
Oui. Ah. Oui. Clairement du harcèlement au sein de la société, mais nous ce n'est pas grave.
Nous ne sommes C'était pas avant MeToo. Hein.
Nous sommes en 1996, ça se voit.
Genre il lui dit, dis donc, tu n'as pas de jupe aujourd'hui.
Jupe malade.
Et elle adore, c'est ça, elle est un peu...
Ah bah, elle est
elle complètement ça, émoustillée.
Il n'y a pas une seule fibre de son être qui se dit « c'est un peu déplacé quand même
». C'est vrai.
Non, le pire, c'est qu'elle lui écrit en mode « je crois que c'est la direction c'est, qui est malade et pas la jupe oui. ». Donc en mode, genre elle rigole sur le fait que hey, c'est du harcèlement sexuel, mais en fait elle rigole pas.
Ah non.
Non, bah non,
non, elle
pas du tout.
Tiens, je vais sortir cette punchline,
pour lui
ça
faire
va
peur.
Faire rire. Tu
elle
vois,
flirte à mort.
Oui, elle flirte ça, à mort.
Mais elle est amoureuse de lui.
Elle est complètement amoureuse de lui et donc... il va y avoir tout le truc où avec la Saint-Valentin, elle va espérer qu'il lui écrive, elle va attendre toute la journée à faire les allers-retours. On a toute la journée, heure par heure, minute par minute, où elle descend à chaque fois en bas de chez elle dans l'espoir d'avoir une carte de Saint-Valentin. Donc c'est assez rigolo dans la façon dont c'est écrit. C'est
J'avais un peu le cœur brisé quand même pour elle. Je me disais, franchement, alors on verra plus tard, je n'ai que de très peu de sympathie pour ce personnage, Mais le coup de la Saint-Valentin et le coup du elle voulait faire une escapade amoureuse un week-end ou machin, moi j'étais triste.
Ouais, parce que du coup elle va avoir une espèce de relation, si on veut, avec Daniel Cleaver, donc son boss. Et déjà lui, tous les week-ends, en fait, il veut juste s'enfermer dans la chambre à coucher.
Regarder le cricket.
Ah, oui, parce que c'est même pas... Enfin si, au début c'est pour faire la chose, mais après, après c'est pour regarder le cricket comme un anglais basic. Et du coup, tu te dis, putain, c'est le gars sur lequel elle fantasmait et tout. En fait, il est nul, ce mec. Ouais. Il est nul, il fait rien, quoi. Enfin, je suis désolée, vous êtes à Londres, l'une des plus belles villes du monde. Enfin, il se passe tellement de choses dans cette ville et vous, vous êtes là à regarder le cricket. Enfin, nul. Nul.
Décevant.
Et elle a tout ça à peu près normal. Bon, ça la fait chier parce qu'elle voudrait faire autre chose, mais elle lui dit rien, quoi. C'est un peu...
Il y a un peu une phrase qui m'a un peu choquée. C'est genre, elle est là dans le lit, elle se fait chier avec lui, et elle dit, pendant que genre sa main lui tripote le sein, comme un grain de raisin.
J'ai noté cette phrase quelque part parce que j'étais choquée.
Ouais,
genre,
j'étais là,
rien ne va.
Comment un grain de raisin.
Et après, il lui dit un truc ultra beauf, et j'étais là genre, non mais rien ne va, en fait.
Ah, ouais, il lui dit, oui, les hommes n'aiment pas les femmes minces, les hommes aiment les culs sur lesquels on peut poser son verre de bière.
Et ranger son vélo, un truc comme ça.
Déjà, je me suis dit, mais vraiment... Et quel moment déjà t'imagines ranger un vélo
enfin, entre des l'image fesses. Est particulière. Hein.
C'est vraiment pas fait du tout pour ça.
Ce n'est pas l'utilité première.
Tu sais pas, Victoire.
Peut-être pas tu à côté de quelque chose.
Le verre de bière encore, tu vois, j'en sais rien, mais le vélo, moi, ça m'a...
Non, mais on est dans la beaufrie la plus totale la avec beaufrie. Daniel Cleaver, c'est terrible.
Mais en plus, ses potes lui disent que c'est un gros connard, un enfoiré affectif, voilà.
Oui, mais ça, on connaît... Enfin, ça nous est déjà tous arrivé, on sort avec un connard, il y a tous les amis qui font « c'est un connard !» Je me dis « non !»
Oui, donc finalement, tout le monde est déjà sorti avec des connards. Bon, voilà,
mais... Vous êtes toutes déjà sorties avec un Daniel Cleaver.
Il y a énormément de Daniel Cleaver dans la société, malheureusement.
Oh oui. Voilà. Ça balance. Elle a pas peur.
Balance ton Cleaver. Et en parallèle de ça, on a aussi les aventures des parents de Bridget.
Ah oui.
Parce que genre, dès quelques semaines après les fêtes de Noël, son père déboule chez elle en pleurant parce que sa mère l'a larguée. Elle lui a dit qu'elle en avait marre de faire sa vaisselle et qu'elle voulait vivre sa vie. Ce qui en soi peut se comprendre hein, pour
Moi,
une femme qui a été toute sa vie femme au foyer.
Oui, mais là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire une émission de télé genre Blind Date, je sais pas quoi là. Fin...
Non, Blind Date...
Non, c'est pas vraiment c'est ça. C'est elle interview des gens... qui ont...
Sous d'un seul.
Ah oui,
ah oui ouais, sous d'un seul. Enfin bon, c'est un truc...
Qui sont célibataires.
Ouais. En anglais, c'est « suddenly single ». Avez-vous déjà pensé au suicide? Demande-t-elle aux gens.
Ça, c'est
déjà, comment elle se retrouve là? Enfin, c'est un peu improbable. Enfin...
Oui, non, mais clairement, c'est pas réaliste.
Et surtout, elle a un nouveau mec qui s'appelle Rolio. Qui est portugais.
Et qui est très végé.
Qui est très végé, qui est très jeune. Donc, bon, elle a son émission à la télé. Elle est avec Rolio. Bon. Okay.
Alors que le père de Bridget pleure toutes les larmes de son corps.
Voilà, et donc Bridget est complètement en porte-à-faux entre ses deux parents Et elle, d'un côté, elle a un peu de sympathie pour son père et elle en veut vraiment de ouf à sa mère. Elle se dit, je suis la fille d'un mariage brisé, comment ma vie peut bien se passer maintenant ? 96, hein, les divorces étaient encore pas si fréquents. Hein.
Et oui.
Je veux dire, Charles et Diana, ça a ébranlé le pays. Hein.
C'est vrai. Mais d'ailleurs, elle fait un parallèle. Société. Oui. Elle dit, rien ne va, c'est comme la famille royale, ouais. Tout part à volo.
Elle dit, Charles couche avec Camilla,
voilà.
Ouais, rien ne va. Elle précise bien le nom, non, c'est Charles, Camilla Parker-Bowles. Ouais, ça, j'ai adoré
et
cette
ma mère
ref.
Se tape Rulio. Voilà.
Et sa mère, en plus, à chaque fois, c'est genre un peu une grande tragédienne, quoi. Elle est tout le temps là à prendre la pause. Et moi, j'adore, c'est qu'elle dit que sa mère, elle imite la princesse Diana en regardant dans le lointain d'un air mélancolique. Et vraiment, j'imaginais la scène et j'étais morte de rire.
C'est hyper drôle.
C'est drôle, quoi. Franchement, sa mère, elle est hyper marrante.
Puis elle débarque chez elle pour faire du shopping, lui proposer des vêtements improbables, la coacher soi-disant sur sa vie amoureuse, puis, sa vie professionnelle.
Sa mère, c'est la quintessence un peu de la British woman qui est très classe moyenne, quoi, et du coup très pince sans rire sur certains trucs. Elle balance des phrases qui sont quand même extraordinaires parfois. Et moi, j'aime bien. C'est limite mon personnage préféré, la mère de Bridget.
Ah, j'ai adoré ce personnage.
Elle me fait trop rire.
Pas dans le livre.
Non, ouais. Moi, ouais. Je trouve que dans le livre, c'est déjà son histoire est vraiment pas crédible. Enfin, soyez honnête.
Bah, si, clairement, une femme qui a un peu sa crise.
Franchement, quand elle dit, je suis à l'automne de ma vie, c'est elle ça, est un peu voilà. Touchante.
Non, alors là, c'est
mais
touchant.
Mais, okay, mais après, ça part en couille, les gars. Enfin.
Oui, mais
d'où elle rencontre ce Portugais. D'où elle fait une émission à la télé. Et surtout, après, le Portugais s'avère être un escroc et ça part complètement. Un volo. Enfin,
ouais,
genre,
mais moi ça m'a fait rire parce qu'elle est tellement gênante, sa
c'est
mère.
Ça, ouais, mais trop gênante. Moi je pense que j'étais. Elle est trop gênante. Elle me met mal à l'aise.
Oui, bah d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la dédicace du livre Bridget Jones est justement dédiée à la mère d'Hélène Fielding. Elle lui a dit merci de ne pas être comme la mère de Bridget.
Eh bien oui.
Meilleur compliment.
J'avoue. Voilà.
Et je remercie aujourd'hui ma mère de ne pas être aussi comme la mère de Bridget.
Remercions tous nos mamans. Allez.
Merci maman.
Non, moi j'avoue que c'est un personnage qui m'a fait beaucoup rire. Et oui, en parallèle de ça, bah, tu as aussi pas mal de scènes, outre les amours de Bridget, où elle est énormément gênante elle aussi en société. Genre à un moment, il y a une soirée au bureau et elle est complètement awkward. Enfin, elle sait pas du tout comment se comporter. Et du coup, elle lit des conseils dans les magazines en mode tu dois juste dire deux phrases aux gens et te casser. Et en fait, sauf que dans la vraie vie, ça n'est pas naturel de faire ça.
Ça ne marche pas.
Ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est trop marrant comment elle essaie de briller en société et tout. Et juste, en fait, elle est trop gênante. Enfin,
oui, ou quand elle essaye de faire la cuisine, elle se dit, oh là là, tout le monde va revenir chez moi. Les dîners de Bridget, les meilleurs dîners de Londres.
Elle s'enflamme de ouf. Elle se dit,
elle prépare des
parfait à l'orange.
Oui, elle se lance dans les trucs infaisables de base. Et
alors qu'elle
ne
sait pas faire une quiche,
quoi. Mais oui.
Alors... Soyons sympas avec les gens qui ne savent pas cuisiner.
Oui.
Des fois, on s'emballe. On croit qu'on va faire quelque chose de bien. Moi, là-dessus, je la comprends.
Oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, voilà. Donc je ne juge pas.
Mais Jeanne, as-tu déjà essayé de faire des soufflés à l'orange au Grand Marnier ?
Eh ben, écoute, oui, hier soir.
D'accord.
Non, mais oui, elle s'enflamme complètement. Surtout que la plupart du temps, parce qu'elle nous dit aussi dans son journal ce qu'elle mange. Elle mange des tranches de cheddar, quoi. Enfin,
c'est ça.
Directement dans le paquet. Et du muesli. Et oui, elle compte ses calories aussi, ça c'est tout un pan de son personnage également.
C'est problématique.
L'intervention de Marianne imminente.
C'est un gros problème de ce livre. Ça parle que de calories et de nourriture. En plus, c'est ridicule parce que quand on en apprend un peu plus sur la nutrition, les calories, ça veut pas dire grand-chose. Mmh. Enfin, bref.
Bah, elle l'apprend d'ailleurs à la fin du livre.
Oui.
Les calories, c'est fait en fait de base pour survivre.
Voilà, c'est
et
ça.
Et non pas pour grossir.
Et ben, il y a certains jours, elle en mange pas assez des calories pour survivre. Et il y a un jour, une entrée de son journal qui m'a vraiment exaspérée. Je me suis dit, mais quel exemple pourri pour les gens qui le lisent, surtout si c'est des jeunes qui le lisent.
Après,
c'est quand elle vomit parce qu'elle a trop bu et du coup elle écrit calories zéro, ça compte pas, je les ai vomis. Ah bah super. Non bah allons direct dans l'anorexie. Allez hop.
Après
tout droit.
Pour moi c'est pas de l'incitation parce que clairement son mode de vie il est clairement pas. T'as pas envie de vivre comme elle. Enfin.
Ben moi je trouve que si. Enfin pas si pas dans.
Enfin
dans le sens
tu vois bien
qu'elle
fait que boire que fumer et que s'affamer.
Ouais
ou
non mais.
Boire frais,
d'accord. Mais le fait est que Bridget Jones est devenue ultra populaire et c'est devenu un genre de modèle d'exemple de. Je suis une fille cool de 30 ans. Je vis à Londres. J'ai un boulot. Je me tape des mecs.
C'est plutôt une anti-héroïne pour moi.
Ah non moi je trouve pas.
Moi j'aurais lu à 14 ans j'aurais été là.
Mais bien sûr.
J'aimerais tellement être une Bridget Jones.
Et moi, je m'inquiète sincèrement du nombre d'ados. Alors toi, ça n'a pas été ton cas, tant mieux, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu peut-être beaucoup d'ados qui ont été impressionnés parce qu'ils étaient impressionnables à cet âge-là et qui ont voulu faire comme elle. Et franchement, c'est un exemple mais déplorable. Enfin,
en le lisant aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend du recul, mais je suis d'accord. Je trouve que c'est quand même nul, en fait, ces entrées où elle met son poids. Tous les jours, on voit ses fluctuations de poids. Et puis merci, enfin, dans le livre, elle dit 58 kilos. Mon Dieu, je suis énorme.
Je dégouline de gras. Ouais. Je suis obèse morbide. Et, elle pèse 58 kilos. En fait, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit?
C'est quand même un peu léger. Et je me dis, même dans la traduction française, bon, ok, c'était
à quel moment
96,
ils ont mis 58 kilos, quoi.
Ouais, est-ce qu'ils, enfin, à l'époque, bon, c'était peut-être un peu
différent. Ils ont traduit fidèlement le poids qui est en anglais.
Et je pense que ça a posé moins de problèmes parce que c'était un peu l'époque.
C'était l'époque, 90, de l'ultra maigreur.
Ouais, voilà.
C'était ultra populaire.
Mais aujourd'hui,
Diana aussi était très maigre.
Oui, mais si aujourd'hui le livre ressortait, ou même, je me demande, moi, dans les éditions les plus récentes,
mais ça serait taxé,
est-ce qu'ils ont changé? Parce que c'est moi, je trouve ça problématique.
Moi je comprends, enfin, moi aussi je trouve ça problématique. Et clairement, non, tu n'es pas grosse quand tu fais 58 kilos, enfin, je dirais non, juste non. Mais par contre, vraiment, j'ai pas vu ça comme un modèle à suivre, parce que justement, en fait, la fin, enfin, c'est pas tout à fait à la fin, mais il y a deux moments dans le livre pour moi qui désamorcent un peu ça. C'est un moment où elle fait genre 55 ou 56 kilos, et du coup elle dit waouh, ça y est, j'ai mon poids idéal, je suis parfaite. Elle va à une soirée avec ses potes où elle met une petite robe noire exprès pour montrer à quel point elle est mince, et en fait tout le monde lui dit mais ça va et tout, et genre son meilleur pote lui dit mais en fait, enfin, t'as pas un poids normal. Et donc du coup, moi je l'ai vraiment vu en mode, tu vois, elle a une obsession de la maigreur, et du coup en fait elle fait un poids normal de base. Et elle s'imagine qu'elle est grosse, alors qu'en fait, pas du tout.
Oui, elle fait de la dysmorphie, enfin,
exactement.
Clairement.
Et ça, donc ça, c'est le premier passage. Et le passage où, justement, il y a Tom qui lui... où elle explique son truc, son tableau des calories, et que Tom, son meilleur pote, lui dit « Mais juste, tu sais qu'on a besoin de 2000 calories pour vivre par jour ?» Et là, elle se dit « C'est vrai que j'ai été tellement obsédée toute ma vie par compter mes calories et tout, et par mon poids, qu'en fait, j'avais complètement zappé que, en fait, oui, tu as besoin
de
calories pour vivre. »
C'est pas cette scène-là où il l'interroge au hasard sur il y a combien de calories dans tel truc, et elle sait tout. Ouais.
Et en fait, elle sait pas faire ses tables de multiplication, elle sait plus les titres des livres et tout, mais par contre, elle sait les calories de chaque aliment. Mm. Et du coup, tu vois que t'es matrixée.
Oui, et c'est quand même un peu un contre-exemple, parce que, on voit, comme tu dis, elle fume, elle boit, elle fait un peu n'importe quoi dans sa vie. Enfin, je pense pas que ce soit... que l'autrice ait voulu en faire modèle.
J'incrimine pas l'autrice, j'incrimine... Enfin, incrimine, c'est vite dit.
Parce qu'elle, elle dénonce la société, l'autrice,
ouais,
je pense.
Ouais, voilà, justement. Mais je pense que c'est pas assez clair sur... Et vu le succès que ça a eu ensuite, je pense que cet aspect-là, il a été mis de côté pour juste... Elle est drôle, elle est...
Oui, je trouve que c'est quand même pas assez clair.
Du coup, on met ça de côté. Franchement, elle a des problèmes psychologiques, Bridget Jones. Elle est alcoolique. Clairement, elle boit de l'alcool tous les jours, toute seule.
Ouais.
Elle est alcoolique.
Oui.
Pour moi, c'est le début de l'alcoolisme, c'est boire tout seul. Voilà. Oui. Après, désolée s'il y en a qui boivent tout seul chez eux, voilà. Mais après, elle a vraiment des problèmes avec la nourriture et le poids. C'est normal que ton poids, de jour en jour, fluctue, même si on fait du sport. Enfin, c'est normal, donc c'est énervant de lire 58 kilos... Je me dégoûte, je suis affreuse.
Ouais, que ce soit une préoccupation aussi centrale,
en fait. En fait, chaque entrée commence par son poids, le nombre de cigarettes, le nombre de la quantité d'alcool. C'est pas intéressant.
C'est vrai que pour moi, c'est de la qualité littéraire, la parodie, en fait. Mais
Moi, j'ai trouvé ça pénible à lire, quoi.
Ouais, en découvrant le roman, vraiment, ça m'a choquée au début, quoi. Alors après, je sais pas si vraiment elle en parle moins. Quand les mois passent, ou si c'est que je me suis habituée en continuant ma lecture, mais vraiment les premiers mois, les premières entrées, je disais mais c'est pas possible en fait, vraiment ça me choquait. Je disais mais tu peux pas dire ça en fait. Et bon, je comprends que c'était pas la même époque et tout ça, mais vraiment il y a eu un choc, et du coup au début ça m'a un peu dégoûtée de ma lecture.
Ouais, moi aussi. Ouais. Et non seulement c'est choquant, mais en plus c'est pas intéressant.
Je crois que vraiment, enfin, pour moi c'est vraiment aussi pour montrer que c'est complètement exagéré et que c'est pas normal de se comporter comme ça. Enfin, moi je l'ai... Et puis en plus, sur l'édition anglaise, il est écrit genre nous ne recommandons pas de suivre le mode de vie de Bridget Jones. C'est écrit genre sur la couverture.
Non, mais... C'est marrant, j'ai pas vu ça sur ma version.
Non, mais après, je pense que aujourd'hui, ce ne serait pas possible.
Aujourd'hui, tu publies pas un livre comme ça. Honnêtement, c'est pas possible.
Non, c'est sûr.
Ouais, c'est l'époque.
On va dire que c'est un peu daté. Après, ah, voilà, oui, on regarde avec un regard critique.
Bah, oui, bah, même le fait, la recherche désespérée du grand amour, où elle se jette un peu sur tout et n'importe qui à un moment.
Et puis l'acceptation du sexisme de Daniel.
Ouais, Daniel, ouais. Ça aussi,
c'est une vraie problématique sur beaucoup, beaucoup d'aspects.
Ça non plus, je suis pas sûre que ça passe complètement.
Il y a juste un moment où elle a un sursaut, où elle dit, la première fois qu'il la ramène chez lui, il lui dit, non, mais Bridget, nous, c'est que pour s'amuser, hein, c'est pas quelque chose de sérieux. Et là, elle fait, quoi? Non, je refuse! Et elle se rhabille et elle rentre chez elle. Ouais. Et c'est la seule fois où elle a un petit sursaut.
Et après, elle regrette.
Dis, oui, ma fille, c'est bien.
Ouais. Après, elle regrette.
Après, elle dit, ah, pourquoi ne suis-je pas tombée dans ses bras? Et après, elle le fait.
Oui, bah, surtout qu'elle va le regretter par la suite parce que, bah, Daniel ne va pas bien se comporter avec elle, hein. D'ailleurs, quand même, une scène un peu grandiose aussi du livre, c'est elle est censée aller à une garden party
de retraité,
je veux dire, au fin fond de la campagne anglaise sur le thème prêtre, pasteur et catin.
Pasteur et catin.
Pasteur et catin. Donc tu sais, tu relis deux fois la phrase, tu te dis ah oui, ok.
Et Daniel est censé l'accompagner.
Et ça, par contre, pour le coup, quand j'avais 14 ans. En fait, je comprenais pas le délire de la soirée. Enfin,
j'avoue que moi, je comprends pas toujours.
Mais quel est l'intérêt?
J'en ai 28,
c'est un peu,
pas.
Pour moi, c'est un peu l'absurdité, genre de la middle class, encore une fois, anglaise.
Bah, complètement.
Ça n'a aucun sens.
Mais complètement, leur vie sont fades, ils s'ennuient, ils se disent, tiens, on va s'habiller en pasteur et catin et en buvant du champagne. C'est d'une tristesse absolue, mais bon, voilà.
Donc, Daniel la plante, lui pose un lapin.
Parce qu'il a trop de travail.
Déguisé en lapin.
Merci, Jeanne. Et quand elle rentre chez lui, trahison, disgrâce, il y a une blonde bronzée sur le toit, toute nue.
Et qui sort cette fameuse phrase. Mais chou, tu m'avais dit qu'elle était mince.
Ah, mais oui.
Ça, c'est voilà, encore une fois.
Elle pèse 58 kilos.
Ouais, voilà. Ouais. Déjà.
J'ai fait un test sur internet. Quand on pèse 58 kilos pour être considéré comme obèse, il faut mesurer 1m30. Je pense que c'est pas le cas de Bridget Jones. Elle fait une taille normale pour une femme normale. C'est énervant.
Oui, bah. Et donc là, Daniel, dans ses plus,
il sait pas trop où se mettre.
Mauvais retort. Voilà. Non, mais bon, c'est sa personnalité qui ressort.
Et il lui dit quand même, en fait, c'est ma fiancée. On va se marier, quoi.
Non, mais alors, c'est incroyable. L'aplomb du gars.
Ouais.
Non, mais en fait, c'est ma fiancée. Ah, très bien. Bon, bah, excusez-moi alors.
Il lui dit plus tard dans une scène où il l'invite au resto et elle pense qu'il va s'excuser, qu'il va dire je suis désolée, Bridget, recommençons les choses bien. Et en fait, il lui dit non, mais tu sais, elle et moi, on va se marier. Et donc là, elle me dit ok.
Mais surtout que les gens au bureau apprennent qu'il est fiancé et ils sont persuadés que c'est Bridget.
Ouais.
Ils viennent tous la féliciter et t'es là genre, ah bah non, c'est pas moi.
C'est atroce.
Non, mais c'est atroce. C'est
horrible. Donc là, elle est vraiment déprimée, ce qu'on peut comprendre. Hein,
mais ça lui apporte enfin le sursaut qu'elle attendait parce que depuis le début de l'année, elle dit que son travail, elle n'a pas de perspective d'avenir, etc., qu'il faudrait qu'elle trouve un autre travail. Et là, ça va la motiver à chercher vraiment un autre travail pour le coup.
Bah, de toute façon, elle faisait rien. Hein.
Alors, dans le livre, c'est sa mère quand même qui lui trouve l'entretien.
Un travail à la télé.
Ouais.
À la télé.
Pour avec Richard.
Richard.
Que moi,
producteur.
J'aime beaucoup.
Moi aussi.
J'aime beaucoup rire.
Ouais, le personnage, il est quand même rigolo. C'est vraiment un peu le producteur télé où il balance un peu des phrases comme ça.
Ouais, des expressions un peu sensationnelles.
Je pense incendie. Je pense personne brûlée. Je pense. Tu parles que comme ça, c'est trop bizarre.
Donc, exemple classique d'une réunion avec Richard, le producteur. Allez, allez, cria-t-il. En s'agitant comme un beau diable, je pense messe de 9h, je pense pasteur débauché, je pense coït à l'église, je m'interroge sur le goût des femmes pour les pasteurs. Allez cogiter, je ne vous paye pas pour des prunes, trouvez une idée.
Et elle lui dit genre, je préférerais qu'on parle de Colin Firth.
Elle dit, oui, pourquoi pas interviewer Johanna Trollope. Salope ? Quelle salope ?
Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, oui, point Colin Firth et Hugh Grant qui sont mentionnés dans le livre.
Oui.
Ça, c'est prémonitoire.
Ça, c'est quand même pas mal. Hein.
C'est prémonitoire, oui, parce qu'à un moment, bien sûr, comme toutes les Anglaises en 96, elles avaient toutes un kink sur Colin Firth, puisque le téléfilm d'Orgueil et Préjugé de la BBC venait de sortir l'année précédente. Et du coup, c'était l'événement.
On les comprend.
Oui. On était à peine nés, mais...
Mais on comprend quand même, on les comprend quand même. J'avais 3 ans, mais je les comprends quand même.
Et bon, en parallèle de tout ça, il y a quand même Marc Darcy.
Oui.
C'est vrai ça, on n'a pas encore parlé de Marc.
Marc Darcy, d'après...
Si Darcy, vous nous suivez... ding 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 ding.
Si vous nous suivez, nous allons faire le point Jane Austen. Yeah.
Et oui, c'est le moment où on dit que c'est une adaptation libre d'Orgueil et Préjugés.
Et oui.
Très très libre. Hein.
Très très libre, mais bon, très inspiré. Le personnage s'appelle quand même Darcy.
Oui.
Ce n'est pas la subtilité.
C'est pas,
si libre,
hein, c'est pas ça, vraiment quoi. Caché que c'est inspiré d'Orgueil et Préjugés.
Bah d'ailleurs, Helen Fielding, elle reconnaît qu'elle s'est librement inspirée d'Orgueil et Préjugés. Elle l'a écrit dans le Daily Telegraph. J'ai piqué sans vergogne l'intrigue dans Orgueil et Préjugés pour le premier roman. Je trouve que c'est une super intrigue depuis plusieurs siècles et Jane Austen ne m'en voudra sûrement pas.
C'est vrai, pourquoi s'emmerder à écrire un livre original alors qu'on peut pomper sur Jane Austen?
C'est pas si pompé.
Non, je rigole.
Il y a des ressemblances, il y a Mère Darcy, les parents de Bridget, surtout sa mère, qui est un peu pensée à Madame Bennet quand même. Je veux dire, Mrs. Bennet, il y a un petit truc.
Daniel Kiefer aussi.
Oui,
Wickham.
Ouais, bien sûr.
Jeanne qui fait des regards mode Wickham. On s'en souvient.
Non, il y a quand même des péripéties qui ressemblent beaucoup aux péripéties d'Orgueil et Préjugés.
Oui. Oui, parce que Marc.
La fin du livre,
qui apparaît comme un sauveur, etc.
Exactement.
Il aide sa famille dans une.
Et il apparaît sous un nouveau jour, aux yeux de Bridget.
Du coup, tout le monde l'adore maintenant.
Mais elle le voit pas beaucoup dans son premier semestre de vie. Il apparaît très ponctuellement, Marc Darcy.
Oui.
Mais non, mais c'est plutôt à partir de septembre-octobre que d'un coup, elle va le voir tout le temps. Il va apparaître comme ça.
Oui, c'est vrai que dans la première partie, on n'en entend pas trop parler. Puis après, elle le croise quand même de plus en plus.
Mais elle le voit pas si souvent que ça.
Mais c'est pour ça que je trouve que leur relation est basée sur rien du tout.
Bah, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
Ouais.
Le gars, il la voit trois fois et là, je vous aime. Ah bon?
Je vous aime bien.
Oui,
il fait une déclaration.
Merci le taquet en pleine nuque. Je vous aime bien.
Mais c'est aussi un peu une déclaration à la Darcy.
Oui, non, mais bien sûr. Mais...
Malgré votre mère, oh, terriblement ridicule.
Non, mais c'est vrai que leur couple, en fait, j'y crois pas trop. Enfin, ils reposent sur
moi,
rien.
Je trouve que c'est trop rapide.
Oui,
c'est dommage.
Elle le déteste et d'un coup, oh non, finalement non. Il a rien fait pour que tu changes d'avis.
Il a sauvé sa famille quand même.
Elle a déjà un peu changé d'avis avant ça.
Oui, pour l'interview quand même, quand elle doit interviewer.
Il l'aide à plusieurs reprises.
Il l'aide dans son travail, c'est vrai.
Il l'aide dans son travail. Mais c'est vrai que leur relation, pour le coup, elle n'est pas si centrale que ça.
Non.
Alors que Daniel, tu vas vraiment le voir jusqu'au bout du livre. Enfin, il va refaire des apparitions.
Bah, c'est un peu genre, il faut que ça se termine en happy ending. Donc du coup, allez, on met Marc à la fin et hop, ça y est, ils sont ensemble, ils sont heureux.
Après, c'est crédible avec la vie parce que, enfin, dans la vie, des fois, tu ne croises pas des gens et d'un coup, ils apparaissent.
Non, mais c'est vrai.
C'est réaliste,
crédible
tu vois,
avec
non,
la vie.
Non, mais je veux dire, c'est pas fortuit. Comme par exemple dans le film, on en reparlera, mais où il est comme par hasard partout, on en reparlera. Mais c'est un peu plus crédible si tu veux faire une vie plus ou moins réaliste.
Oui,
parce que ce sont
et
des
non.
chroniques réalistes.
Oui et non. Hein. Moi, je vous dis, moi, je ne trouve pas que la mère qui s'enfuit avec le portugais pour escroquer les gens au Portugal.
C'est une fixette sur le portugais, c'est pas possible.
Et qui rentre et qui engueule les policiers alors que quand même,
oui,
elle était en cavale.
Ça, c'est incroyable.
Le portugais qui arrive, qui se cache dans les buissons, qui veut tuer tout le monde. Non.
Alors que la mère s'est remis avec le père, mais le portugais arrive, elle monte à l'étage avec le portugais pour faire on ne sait quoi, elle redescend avec les joues rouges. Non, mais ça va pas ou quoi?
Et la chemise
non, mais...
se déboutonne.
Et la chemise déboutonnée.
Et le père, il accueille les bras ouverts.
Rien ne va.
Il y a quand même d'autres aussi choses qui sont assez pertinentes, je trouve, par rapport aussi à la société et qui résonnent toujours un peu aujourd'hui. C'est quand Bridget, elle va au dîner des mariés et fière de l'être.
Ah oui,
ça, c'est quelque chose que j'ai adoré pour le coup.
Oui. Oui.
C'est quand elle est invitée par ses amis mariés et en fait, elle est la seule célibataire du groupe. Et tout le monde lui dit « Ah, tic-toc, hein, tu ne rajoutes pas !»
L'horloge biologique,
bah, moi, c'est
mes
ma
enfants.
Moi,
je trouve qu'on n'est pas encore trop dans cette période où tout le monde autour de nous est
non,
vieux.
Non, ça va, on n'est pas assez vieux, entre guillemets, pour ça.
Mais les repas de Noël où t'es là genre « Ah bah alors, t'es toujours célibataire ?» T'es là genre « Non mais tonton, tu vas te calmer déjà ?» Non, franchement, si, moi, on commence un peu...
En plus, moi, direct, ma famille attaque le mot « fiancé ». T'as pas un fiancé ? J'étais « Waouh !»
Alors
avant d'avoir un fiancé, il va falloir passer par les étapes d'avant, hein, parce que...
En plus, fiancé, genre d'un coup, tu sais, tu leur présentes un gars, en fait, c'est mon fiancé.
C'est mon fiancé, venez tous dans un an en mariage.
C'est dans un mois.
Non, et ça, pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça
hyper
drôle.
Oui, c'est très pertinent, ouais.
Y a des... Et puis elle dit est-ce que nous on leur saute sur le poil en rugissant oh, alors est-ce que vous faites encore l'amour enfin voilà, pour moi il y a quand même des scènes comme ça où même s'il y a d'autres passages qui sont datés où ça pour le coup ça peut toujours
il y a des petites trouvailles qui résonnent vraiment dans la vie des gens et ça pour le coup c'est vrai que ça marche bien
et surtout il y a des punchlines tout le temps quoi, c'est énorme.
un petit passage daté, il y a tout un passage où elle n'arrive pas à enregistrer avec son magnétoscope, mais j'étais morte de rire.
Avec les VHS,
à dire genre, je vais enregistrer ça aussi, machin, non mais...
Ou tous les passages où elle essaye d'écouter son répondeur, ah, ou ouais, d'appeler, ah, oui, un numéro pour savoir qui a appelé, mais alors là... Mais...
Ah, ce truc, il là, est fou, quand même,
moi je savais pas que ça existait, je me suis dit, putain, bah, heureusement qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, hein, parce que, quelle prise de tête, quoi.
Non, bah,
maintenant, tu sais qui t'appelle, puisque ça apparaît sur ton téléphone.
T'as le nom qui
apparaît. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, je dis, heureusement qu'aujourd'hui, c'est pas ça.
Ah oui et non, parce que du coup, pour draguer en secret ton crush...
Ah oui, mais elle veut surtout savoir qui l'a appelé, si l'a appelé, etc.
Tu peux appeler en masqué si tu veux aussi, hein. Petit tips.
c'est vrai. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas une lecture que vous avez beaucoup aimée.
J'ai l'impression que t'es toute seule, Victoire.
Ah non, moi j'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et très sympa. Après, je trouve qu'il y a certaines choses datées qui m'ont posé problème. Type le problème sur le poids.
Oui.
Ça, c'est un gros point négatif. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était une lecture qui était très sympa et vraiment drôle. Enfin, pour le coup, c'est... Ouais, j'ai bien rigolé, quoi.
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, le poids, c'est plus trop un sujet. Au contraire, enfin, maintenant, on dit... quand je repense aussi aux hashtags sur Twitter qui circulent, plus de 70 kilos et sereine. Enfin, maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup
body
plus...
Body positive.
Oui, voilà, c'est body positive. Il y a des femmes qui sont... ou plus de size 36 en couverture de L. Ça commence à arriver. Voilà. Mais oui, clairement, c'est daté. Mais pour moi, c'est une... Enfin, c'est pas au premier degré, quoi. C'est un peu une dénonciation, mais je suis d'accord.
Bah, le premier degré, je... Honnêtement, bon, après, je comprends jamais quand on est au second degré, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais après, je rejoins Pascal. J'étais un peu choquée au début, mais tu passes pas un mauvais moment. C'est une bonne lecture d'été, je trouve. Mm. Et par contre, oui, t'as des punchlines. Franchement, j'ai rigolé plusieurs fois à gorge déployée.
Oui.
Donc, c'est vraiment sympa. Après, le film est très, très ancré dans ma tête.
Je comprends.
Donc, c'était... Oui.
Pareil, moi pendant tout le livre, je me disais, je veux voir le film.
Ouais, bien sûr.
Voilà, je veux voir.
C'est exactement ça.
Colin, je veux voir Yugi.
Mais moi en plus, c'est pas que j'ai. Enfin, si, j'allais dire, c'est pas que j'ai passé un mauvais moment. Honnêtement, j'ai pas passé un bon moment à lire ce livre. Mais parce que le début m'a tellement saoulée.
Crispée.
Vraiment, j'étais crispée. Et en fait, je tournais les pages, je me disais, j'en ai marre. Elle parle que de son poids, ça me saoule. Et ça n'avançait pas, en plus, dans l'histoire, je trouvais, du coup, que je suis restée dans cet état d'esprit-là pour tout le reste du livre. Alors, c'est vrai que des fois, il y avait des scènes où je sortais du truc et j'aimais bien et tout, et ça me faisait rire. Et bizarrement, je crois que c'est à ces moments-là, elle parlait plus trop de son poids, et d'un coup, bim, ça revenait. Et du coup, j'étais re-en colère, ça m'énervait. Donc, il y a des bons passages, il y a des bonnes petites trouvailles et tout, sympa, des tranches de vie et tout, mais en général, je dirais pas que j'ai passé un super moment à lire ce bouquin, quoi.
Ah oui.
Mais je pense aussi parce que je l'ai lu pour la première fois à 27 ans.
Oui,
avec le regard d'aujourd'hui et tout. Ouais. Je pense que si j'avais été ado, peut-être j'aurais carrément eu une autre vision de ce livre, quoi. Donc je peux comprendre, mais voilà.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé retrouver pour le coup ce livre. Vraiment, je me suis dit, ah mais oui, c'est ce moment-là et tout, j'étais à fond, enfin... Ouais, non, mais ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ce personnage-là, même les entrées façon journal intime, où je comprends pour le coup que ça peut gaver un peu aussi, parce que tu peux te dire aussi, c'est un peu le niveau zéro de la littérature.
Bah, moi, ouais,
la date, le nombre de cigarettes et tout, tu te dis...
Moi, le style me crispe un peu.
Façon
parce
un peu
que
télégramme.
Pas de phrases entières, beaucoup d'abréviations et tout. En plus, moi, je l'ai lu en anglais. Des fois, il y a des abréviations, j'étais... je sais pas ce qu'elle veut dire, là. Je devais un peu chercher, j'étais... Ah, ok, d'accord, elle veut dire ça. Ouais, non, le style... Enfin, le style est pas fou, quoi.
Non, bah c'est
une lecture de vacances pour moi.
Ouais, c'est ça, c'est pas prise de tête, voilà.
Et moi, ouais, pour le coup, il y a vraiment des moments où j'ai vraiment mais hurlé de rire, quoi. Enfin, je trouvais ça vraiment très drôle, les moments où elle était où elle est complètement awkward en société, les grosses looses de la vie professionnelle, je me suis ah ça va, ça arrive encore, tu vois, même après 30 ans, tu te tapes des grosses looses. Bon, voilà, moi j'ai bien aimé retrouver ce personnage. Voilà.
Ne t'inquiète pas, Victoire.
Personne ne te juge, Victoire.
Merci. Mais non, mais franchement, en plus, je me suis dit, ah, vas-y, je relirai bien le 2 aussi dans la foulée, tu vois. Le 2, je crois que j'ai lu qu'une fois pour le coup.
Honnêtement, je me ferai pas des services.
Non, je pense que je vais lire le 2 moi aussi parce que ça m'a donné envie, mais je vais avoir pareil le film en tête.
Moi, je vais regarder le deuxième film.
Ah, tu l'as pas vu?
Si, mais le revoir.
Ok.
Oui. Mais par contre, je ne lirai pas le 3e tome parce qu'il me tente pas du tout. Déjà, le résumé, j'ai vu. Marc Darcy est mort, Bridget Jones est veuve. J'ai fait pardon.
Excusez-moi.
Arrêtez de nous faire ça tout le temps. Stop. Donc, ouais, ça c'est non. Mais non, mais bref, c'est une lecture que j'aime bien. Ça m'a fait plaisir de le relire. Bref. Je suis un peu gênée du coup.
Non, mais on est trop ancré dans le film aussi.
Oui, 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 oui. En tout cas, c'est un livre qui a eu énormément de succès, ne vous en déplaise. En 1996, le journal de Bridget Jones a été élu British Book of the Year. En 2006, soit 10 ans après sa sortie, il s'était vendu au total à 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc quand même, gros succès populaire. Et surtout, cerise sur le gâteau, accrochez-vous bien. En 2007, The Guardian a nommé Bridget Jones comme l'un des 10 romans qui définissent le mieux le XXe siècle.
Allez, non.
Aux côtés notamment de Gatsby le Magnifique.
Oh, arrêtez.
Du journal d'Anne Frank.
Oula.
Non, stop. Attention, on fait pause.
Et de L'attrape-cœur de Salinger.
C'est pas possible. Excusez-moi de mettre le journal. En plus, ça commence pareil, c'est insupportable. Le journal de Bridget Jones et le journal d'Anne Frank dans la même liste.
Eh si.
C'est vrai que là, bon.
Moi, je suis gênée.
Mais bien sûr, dans les années 90, écoutez.
Non, mais c'est ça, en fait, 2007. Aucune...
Oui, mais le oui, livre, oui. Voilà. Ouais, l'incarnation des années 90 et oui. leur insouciance.
Bah, ça représente, je pense que c'est un livre qui représente un peu quelque chose pour la société britannique, pour le coup.
Oui, et moi je trouve que pour le coup, c'est très ancré dans la société britannique
oui.
des années 90. Il y a énormément de références, parfois quand même que je ne connaissais pas. Hein, la télé anglaise en 96, bon...
Oui, ouais, bah, bien sûr. Elle ne fait pas beaucoup référence à des films ou à des musiques ou quoi. C'est
très culture
très...
populaire. Ouais. Ouais. Mais même quand même, elle fait référence à l'actualité parfois, enfin c'est...
Elle parle
vraiment
de
dans une époque.
Trump à un moment aussi.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Genre, ok, elle est là.
Déjà là.
Très bien.
Oui, mais c'est dans la même liste que,
ouais, non.
que le journal d'Anne Frank.
En toute modestie.
En toute modestie. Moi, je trouve que c'est pareil. Au niveau de ce que ça apporte,
franchement.
C'est pareil.
Moi, je propose qu'on lise Bridget Jones au collège.
En classe d'histoire, histoire d'avoir un aperçu de la vie des années 90 en Angleterre.
Voilà, les enfants, ça, c'était les années 90.
Sinon, sur une autre note, une petite qui est enfermée dans un...
Franchement, ça me... Et qui se cache des nazis.
Ça me déprime. Cette liste
Spoiler,
me déprime.
Ça tourne mal. Donc le journal de Bridget Jones a eu donc un énorme succès et c'est ainsi qu'il a été évidemment adapté au cinéma en 2001 et nous vous passons la bande-annonce tout de suite.
Pour Bridget Jones, c'était toujours la même histoire.
Tout va bien. Oulet !
Ta mère est sûre de te caser avec un divorcé.
Marc, vous vous souvenez de Bridget ? Elle courait toute nue sur votre pelouse, vous vous rappelez pas ?
Mais tout...
Il est toujours aussi mignon, ce cher Cleaver.
Oh là là, oui.
...va changer.
Ton bonheur futur dépend entièrement de ta prestation lors de cette soirée mondaine.
On va boire un verre chez moi ? En tout bien, tout honneur, ça restera purement sexuel.
T'as un petit ami, toi ?
Ah oui, papa. Et il est parfait.
Voilà des petites bottes qui se sentent de trop. Voilà une petite robe qui se sent de trop. Et voilà, putain, voilà une culotte absolument hallucinante.
J'espère qu'il est digne de notre petite Bridget.
Je suis le roi du monde!
Sans le moindre doute, absolument pas. Maintenant, Bridget doit choisir entre un homme qui semble trop beau pour être vrai.
Tu es la seule qui puisse me sauver, Bridget. J'ai besoin de toi.
Et un homme si impossible que tout est possible.
C'est comme si vous vous donniez un mal de chien pour que j'ai l'impression d'être une demeurée totale chaque fois que je vous rencontre.
Non, je veux dire que je vous aime beaucoup. Tel que vous êtes. Allez, Cleaver, viens dehors.
Pardon?
Dois-je me munir de mes pistolets de duel ou de mon épée?
C'est une vraie bagarre!
Le journal de Bridget Jones, Bridget Jones Diary, toujours en VO, est une comédie romantique britannico-franco-américaine réalisée par Sharon Maguire, sortie en 2001. Donc pour situer Sharon Maguire, c'est une réalisatrice et scénariste galloise née en 1960. Elle a d'abord été journaliste, notamment pour la BBC, en participant à la production et à la réalisation de The Late Show, qui est un magazine culturel diffusé après le journal sur BBC Two. Et c'est comme ça qu'elle a connu Ellen Fielding, parce que les deux, en fait, sont amies. Et donc, c'est comme ça que Sharon Maguire s'est retrouvée sur le projet, parce que voilà, elle était copine. Avant, d'ailleurs, elle avait réalisé quelques documentaires, mais c'est avec le journal de Bridget Jones qu'elle est devenue très célèbre comme réalisatrice. Elle n'a pas énormément réalisé par la suite, bizarrement. Elle a réalisé le troisième film de la trilogie, Bridget Jones Diary, qui est sorti en 2016. Elle a aussi réalisé le film Marraine ou presque sur Disney+, en 2020.
Ah, le...
Avec la Marraine la Bonne Fée.
Ouais, oui, avec... ouais. Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, et elle sera la réalisatrice de l'adaptation du roman de Joe Baker, Une saison à Longbourn, ah. qui est le spin-off d'Orgueil et Préjugés du point de vue des domestiques des Bennett.
Oui, oh, que j'ai lu.
Que j'ai lu aussi. J'ai pas trop aimé le livre, mais je pense qu'en film...
Un peu décevant.
En film, je pense que ça peut bien rendre, pour le coup. Mais voilà, elle est sur le projet. Au casting du journal de Bridget Jones. Alors, il faut savoir que de nombreuses actrices ont été envisagées pour le rôle-titre. De toute nationalité, je vous ai fait un petit florilège parce qu'il y en avait vraiment énormément.
J'ai hâte.
Ah. Juliette Binoche.
Mais non.
Ah, carrément.
Cate Blanchett. Helena Bonham Carter.
Oula.
Toni Collette. Cameron Diaz. Nicole Kidman.
Oula.
Sophie Marceau.
Quoi?
What?
Tilda Swinton.
Non,
mais par contre, c'est une anglaise typique. Mais, hein, mais Sophie Marceau, qu'est-ce qu'elle fout là?
On voit quoi, les gens ressemblent ou pas du tout?
Christine Scott Thomas, Emma Thompson, Naomi Watts, Rachel Weisz, Kate Winslet et Catherine Zeta-Jones.
Oh, Kate Winslet, j'aurais bien aimé.
Kate Winslet, c'est la plus crédible de tout le lot. Hein.
Oh, il y en a, c'est improbable. Il y en a Bonhomme Carter, en quelle année? Pourquoi?
Bah, en 96.
Non, mais...
En plus, c'est 2001, mais...
Ouais, bon choix, n'est-ce pas?
Bah, ouais, avec... oui, puisqu'avec, c'était Renée Zellweger, qui est américaine, au demeurant. Et ça a causé un grand drame pour, justement, les Britanniques, qui ont trouvé que c'était un scandale.
Enfin, heureusement que c'était pas Sophie Marceau, enfin...
La vache, ouais.
Ouais, j'imagine pas trop Sophie Marceau en Bridget, mais... Pourtant, enfin, j'ai rien contre Sophie Marceau, en soi.
Non, mais c'est pas trop son genre de rôle, à Sophie Marceau, quoi, ça.
Non, c'est vrai.
Puis elle parle français, quoi. Je veux dire.
Bah, peut-être qu'elle parle très bien anglais.
Après, tu peux prendre des cours de
pour avoir un accent. Ouais.
Bah, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Renée Zellweger.
Ouais, parce que son accent est pas très choquant.
Et bah oui, elle a travaillé sur son accent justement avec Barbara Bercury, qui a aussi aidé Gwyneth Paltrow pour Shakespeare in Love.
Mmh. Ouais.
Voilà, fun fact. Et Renée Zellweger aussi a gagné plus de 35 kilos pour le rôle de Bridget.
35 kilos?
Quoi?
Bah, mais elle en pesait 40 pounds. À la base ou quoi?
Donc c'est à peu près 35 kilos.
Ça me paraît quand même énorme.
Ça me paraît énorme parce qu'elle a, elle est pas si grosse, entre guillemets, que ça à l'écran, moi je trouve.
Non. Bah non. Non, à mon avis, elle devait être toute fluette.
Oui,
avant,
je pense qu'elle devait être très, 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 très mince avant.
Elle l'a super mal vécu d'ailleurs de devoir prendre du poids comme ça.
Pardon, mea culpa, c'est une erreur totale de ma part de la conversion. Elle a en fait gagné 12 kilos pour le rôle de Bridget Jones et non 35, autant pour moi. Effectivement, ça aurait été vraiment énorme sinon.
Pas simple, enfin, surtout que c'est pas forcément bon pour la santé de gagner très vite du poids et ensuite de le reperdre. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Elle a aussi, pour se préparer pour le rôle, elle a travaillé pour une maison d'édition britannique pendant un mois.
Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Picador, d'ailleurs, qui a publié le livre.
Le livre, donc voilà. Et du coup, là-bas, en fait, elle était incognito. Elle avait pris un alias et en gros, elle avait pris aussi un accent un peu poche, un peu chic. Et du coup, personne ne l'avait reconnue. Alors que pourtant, dans son bureau, elle avait genre une photo encadrée de Jim Carrey, qui était son petit copain à l'époque.
Ah bon?
Et personne n'a tiqué, personne n'a osé rien dire. Je sais pas, les Anglais, ils sont trop polis, ils ont pas osé te poser de questions.
Non, mais ça sent, genre, tu sais, l'émission Patron Incognito, où en gros, tout le monde voit que t'as une vieille perruque sur la tête. Bon, bah là, tout le monde était, il y a Renée Zellweger au bout du couloir. Et personne l'a dit.
Ça quelle est cette référence, Marianne?
Non, mais à moi, cette émission, elle me tue, parce que je le vois que c'est ton patron, c'est évident. Tu vois, mais tout le monde, ils sont genre, oh là là, dans le courte paille, il n'y a plus de patron, on ne sait pas où il est. Bon, bah là, c'est pareil. C'est exactement pareil.
Bon, en tout cas, elle avait pile 32 ans quand le film a été tourné. Donc, comme Bridget, elle avait l'âge parfait. Et il faut savoir aussi qu'il y a une autre personne du casting qui avait à la base candidaté pour Bridget, c'est Sally Phillips qui
je l'adore.
Fait du coup Sharon, donc la meilleure amie féministe
de J'adore Bridget. Cette actrice.
Voilà, mais elle a failli faire aussi Bridget Jones. Et bon, donc ça c'est pour Bridget. On a aussi Colin Firth dans le rôle de Mark Darcy, donc ça c'est quand même... tout simplement incroyable d'avoir réussi à l'avoir parce que c'était bien sûr le Mark Darcy.
Ah bah oui, c'est brillant.
Le Mark Darcy.
Fitzwilliam.
Fitzy pour les intimes.
du téléfilm de la BBC. Donc, il joue littéralement le rôle.
Ouais, le même rôle.
Le mec, quoi. Ouais. C'est énorme.
C'est énorme. C'est... Bah, en plus, il adopte quand même des expressions dans le film, enfin genre visuel,
ouais,
facial.
Ce regard intense.
ce regard de braise.
Non, genre, il a, c'est même pas il a déshabille du regard. C'est que... Bon, non, je vais pas aller plus loin. Mais franchement, wow, ouais, ce regard intense qu'il a, ouais, c'est le vraiment...
Mais le côté très, très mal dans à l'aise dit, aussi en, ouais, société, qui est exactement, ouais, le peu, même dans, ouais, les deux, dans la série...
Il en joue.
Oui, voilà, en joue. Mais de toute manière, bon, il joue à... J'adore hein, Colin Firth, mais il joue un peu tout le temps, oui, l'anglais coincé, un peu... qui arrive pas trop à s'exprimer dans la société.
Ah bah dans Love Actually, après, je l'aime trop, exactement son rôle, ouais.
Mais bon, là, ils ont vraiment fait encore plus le parallèle que dans le livre.
Ouais.
On verra tout au long du film qu'ils, exactement, ont quand même vachement plus mis l'emphase sur ce...
Sur ce téléfilm de la BBC, ouais. Ouais.
Bah déjà... ouais. Pardon.
Vas-y.
Bah déjà, Bridget, donc, elle travaille dans une maison d'édition. On ne sait pas comment la maison s'appelle dans le livre. Et dans le film, c'est Pemberley Press.
Ouais.
Sachant, ah oui, que c'est Pemberley, vrai, est la maison de ça, Monsieur Darcy.
Mais c'est pas une vraie, ouais, maison. Alors, qui est reliée soit à Penguin, soit...
Je sais pas,
Hachette,
je sais pas,
ouais.
Mais bon, quand même, petite référence.
Ouais,
quoi.
Petite référence, petit clin d'œil.
Bah, de toute façon, il y a énormément des acteurs et actrices de Bridget Jones qui ont joué dans des adaptations de Jane Austen. Donc, bien sûr, on a Colin Firth d'Orgueil et Préjugé, mais aussi Hugh Grant qui fait Daniel Cleaver, ouais, et qui a joué dans Raison et Sentiment.
Oui.
Voilà, on a Gemma Jones qui joue le rôle de la mère de Bridget qui a aussi joué dans Raison et Sentiment. Et on a M. Beth Davids qui joue le rôle de Natasha, la collègue avocate de Marc, qui a joué dans Mansfield Park.
Mm.
Et bien sûr, film anglais oblige, plusieurs aussi de ces acteurs ont joué dans Harry Potter.
Bah hein, oui, évidemment. Mimi Géniard.
On a Mimi Géniard.
Est-ce qu'on en parle?
Mais j'ai cru que j'avais des hallucinations
non, mais
pendant
moi,
tout
moi, je suis choquée parce qu'elle a la même tête.
Oui. Ouais. Shirley Anderson.
Cette personne n'a pas changé et elle joue quand même une ado de 15 ans dans Harry Potter.
Alors qu'elle en avait...
13. Enfin, bon, bref, enfin, oui, elle est jeune.
Enfant.
Est-ce que j'ai le droit de détail?
Et du coup,
enfin, voilà, une ado, quoi.
Et du coup, dans Bridget Jones, elle joue donc le rôle de Jude, donc la fille qui est tout le temps en train de pleurer sur Richard le Cruel. Et c'est marrant parce que du coup, la première scène où on la voit, elle pleure dans les toilettes comme oui, Mimi Géniard. On adore.
Incroyable.
On adore. Et d'ailleurs, du coup, celle qui fait aussi la mère de Bridget, c'est celle qui fait Madame Pomme Fraîche.
Ah
oh c'est ça.
Et le père, et le père de le Bridget père qui fait Slughorn.
Exactement.
Oh la vache.
Oh, je l'avais pas la pomme
non,
fraîche.
Non, moi non plus.
C'est vrai qu'on l'avait pas la pomme fraîche.
Non. Mais le père, j'avais capté, mais la mère, ouais.
Ouais.
Ça, voilà, c'est classique, hein, les
oui,
films
bah,
british.
Oui, british, voilà, tu les as forcément vus quelque part. Bon, parlons du film. Donc là, on ne pouvait bien sûr pas recréer quand même ce côté journal entrée par entrée. Donc il y a un peu plus de fluidité qui est apportée dans le film. Mais ça commence quand même au réveillon de Noël avec Bridget qui arrive chez ses parents et c'est un peu la loose et sa mère veut la forcer dans les bras de Marc Darcy
et qui,
qui
bon
pour le
pull
coup
de Noël.
Porte un pull de Noël. Alors on est fan,
qui
on
se
est pas fan.
Retourne au ralenti.
Ah oui, avec
bah cette elle est pas fan.
Elle est pas fan. Moi j'adore les pulls de Noël.
Mais je crois que c'est revenu à la mode depuis pas si longtemps. Mmh.
Maintenant,
oui
mais
tu
ça
vois,
m'énerve parce que les gens ils disent des pulls moches de Noël. Je suis genre
bah comment en fait au Royaume-Uni je crois qu'il y a un jour justement oui, qui s'appelle le Ugly Christmas
ouais,
Sweater.
Mais moi j'adore.
Il y a même un concours je crois.
Ouais il y a un concours et donc c'est genre mais maintenant le moche est assumé comme cool.
C'est ça.
Il y a eu un livre là-dessus d'ailleurs. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a eu un essai sur pourquoi le moche maintenant est devenu attractif.
C'est pour ça
cool,
qu'il y a des gens qui ont des K.O. et Ricard dans la rue.
Et des bobs.
Et des bobs, d'accord.
Des bobs chez nous.
Et des crocs. Et des crocs. Le film reprend pour le coup des citations un peu texto du livre. Enfin, il y a quand même des. Enfin, c'est assez fidèle dans ce sens-là où t'as vraiment des phrases. Et d'ailleurs, Ellen Fielding a participé au scénario avec justement Richard Curtis, donc pour le coup, l'esprit est plutôt bien respecté, mais t'as quand même un film beaucoup plus condensé que le livre, puisque le film ne dure qu'une heure et demie,
oui,
donc t'as des scènes un peu choisies, et tout va un peu plus vite.
Mmh. Oui.
Mais ça reste cohérent, je trouve, enfin, en tout cas, dans la rencontre entre Marc et Bridget, et l'évolution de leur relation,
j'ai trouvé ça un peu plus cohérent que dans le livre.
Mais en fait, dans le film, suis d'accord
aussi.
Oui, je suis d'accord aussi, mais du coup, dans le film, tu vois Marc Darcy tout le temps. Genre, elle va quelque part, il est là.
C'est vrai, toujours là. Ça, c'est un peu bizarre. Il est toujours là.
Il est toujours là.
C'est bizarre et pas vraiment, parce qu'ils font partie d'un peu d'un genre de cercle
non, mais
de gens.
Le lancement, la soirée de lancement littéraire, qu'est-ce qu'il fait là?
Mais lui,
il a des droits de l'homme.
L'escapade au vert, ça n'a aucun sens qu'il soit là, comme par hasard.
L'escapade.
Oui, mais ça, c'est dans le livre, je crois. À un moment, ils sont à l'escapade. Parce qu'il y a un mariage, et je crois qu'ils sont du mariage ou un truc comme ça.
Oui, je crois.
Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'ils se voient trop, mais du coup, c'est plus crédible sur l'évolution de leur relation.
Oui. Bah oui.
Parce qu'ils ont le temps de plus faire connaissance. Et pas encore au moment où ils sont dans leur famille.
Oui, et puis le
même quand ils se voient, ils se parlent pas pendant des heures non plus. Ouais. Quoi, c'est pas.
Puis le film présente bien aussi les personnages, parce que franchement, le personnage, l'introduction aussi du personnage de Daniel Cleaver joué par Hugh Grant.
Ah oui,
genre quand il arrive comme ça en mode regarde
avec
en
ses
coin,
cheveux,
il est trop cool.
L'ascenseur s'ouvre
et il arrive en mode le roi de la savane, genre hey, salut les poulettes.
C'est tellement ça.
C'est exactement ça et franchement on kiffe tout un peu, quoi. J'ai peut-être un peu gloussé.
Tu n'étais pas seule.
Voilà.
Est-ce que tu as autant gloussé que quand tu as vu Léo dans Roméo et Juliette?
Non, jamais, il n'y aura autant de gloussement que pour Léo.
Léo est en 10. Combien mets-tu à Daniel Cleaver?
Alors, en fait, je le préfère dans Coup de foudre à Notting Hill.
Oui.
Donc,
En fait, le personnage est quand même beaucoup plus sympathique dans Notting Hill. Donc bon.
Mais là, moi, je trouve que Hugh Grant fait très bien le mec qu'on a envie de détester.
Ouais. Oui. C'est ça. Tu t'adores le détester.
Il est super.
Ouais.
Oui.
Et puis il fait bien. Gros con et tu fais j'adore.
Et d'ailleurs, en VF, parce que j'avoue, j'ai regardé le film en VF et en fait, il est doublé par Thibaut de Montalembert.
Non.
De 10%.
Ah bon?
Ah bon, oui, je vais regarder en VF alors.
C'est sa voix officielle, c'est la voix officielle VF de Hugh Grant depuis toujours.
Ah bon?
Il l'a doublé dans tous ses films.
Mais non.
Mais si.
Trop bizarre.
Ok.
Je suis choquée.
Bah voilà. C'était.
On l'a regardé en VF, mais nous c'était une VF un petit peu
bizarre.
Mince, une vécue. Non.
Ah non, mais et franchement, et du coup, t'as des phrases qui sont assez énormes parce qu'ils ont rajouté quand même des scènes qui sont pas dans le livre et notamment la scène de la culotte gainante qui n'est pas dans le livre. C'est
Jeanne, veux-tu nous raconter cette scène?
Tout à fait. Donc l'histoire de cette culotte gainante, c'est que enfin Bridget va avoir un date avec Daniel.
Ouf.
Elle se dit, elle hésite. Elle se dit pour arriver à mes fins. Il faut que je choisisse la culotte gainante qui aplatit.
C'est pas tout à fait un date, en fait. C'est
Ah, c'est la soirée de lancement.
La soirée pro. Mais elle espère scorer.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, ils sont en soirée de lancement d'un roman. Et elle espère, donc voilà, scorer à cette soirée avec Daniel. Elle met une robe très, très belle, une robe noire, un peu de cocktail. Elle se dit, si je veux arriver à mes fins, il faut que je mette cette culotte gainante qui aplatit le ventre, qui retient tout là où il faut. Mais en même temps, si j'arrive... au moment propice, ce serait mieux que je mette une petite culotte en dentelle. Bon, finalement, le choix est vite fait. Elle met la culotte gainante. Sauf qu'au bout d'un moment, elle oublie la culotte gainante et elle arrive chez Daniel. Et donc, Daniel découvre cette culotte et a ce fameux...
En plus, quand il dit, mais qu'avons-nous là?
J'adore. Bon Dieu, Jones, qu'est-ce que c'est que cette culotte? Donc, elle est mortifiée, mais en même temps, ça fait son petit effet puisqu'il a l'air de bien aimer cette culotte.
Oui,
finalement.
Oui.
Et donc, en fun fact, commençons par une fun fact sur le film, la culotte de Bridget a été vendue aux enchères pour 2000 pounds.
Quoi?
Je trouve ça un petit peu
elle
dégoûtant.
Elle était dédicacée par Hugh Grant.
Oh non! Ah, ça, j'avais pas l'info!
Si. Ah je complète l'anecdote. Donc, elle a été dédicacée par Hugh Grant. Et pour le coup, là, tu te dis, bon, d'accord, c'est la vraie, tu vois.
Ouais, bon, déjà, c'est un peu gênant de vendre une culotte gainante aux enchères, mais soit.
Je trouve ça, c'est cool.
Ah ouais? Bah, sympa.
Bah, je sais, non, en fait, je l'aurais pas acheté, mais tu vois, par rapport, genre, à des trucs où les films de super-héros où tu vends, je sais pas, le bouclier de je sais pas qui, tu te dis, là, c'est marrant qu'il y a des gens qui veulent acheter la culotte gainante de Bridget Jones. C'est rigolo.
On se voit mal acheter le slip de Captain America. C'est vrai.
Je suis sûre qu'il y en a qui veulent le faire. Ou le slip de Superman, tu vois. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont fait.
Et donc, d'ailleurs, l'année de la sortie du film, il y a eu un pic de vente des culottes gainantes.
C'est pas vrai.
Et les ventes de string ont
se sont effondrées.
Toutes les Anglaises ont cru qu'elles avaient pêché Hugh Grant avec les culottes gainantes.
Tout à fait.
Je veux dire, on redescend sous le petit nuage.
Elle l'achetait. Je comprends pas, pourtant j'ai tout fait.
Mais je ne vais pas mentir, moi-même, j'ai une culotte Gaynante.
Ah.
Et alors, pour montrer à quel point Bridget est rentrée dans la pop culture, c'est que je l'appelle ma culotte Bridget.
Ah.
Voilà.
J'adore.
Donc, fun fact.
Mais est-ce que tu la mets très souvent, cette culotte?
Je peux la mettre très souvent. Je ne l'ai pas forcément mise en date.
mais peut-être
à suivre.
Mais est-ce que tu vois vraiment la différence par rapport à des collants Gaynants?
Ah.
Je mets pas forcément de collants Gaynants. Alors là, ça passe.
La discussion parle de quelque chose comme ça.
Non, non, parce que maintenant, on a ça en 2021. T'as même plus besoin de culottes. T'es
là, on
ne
parle plus
toi,
d'adaptation de livres. On est sur un autre sujet.
Bienvenue dans le podcast sur
des culottes et des collants.
C'est parti. On va comparer nos brioches après, tu sais. Confinement, confinement, bon.
Bon,
comment rebondir?
Eh ben, suite à cette scène, Bridget est heureuse. Bridget est avec Daniel.
Bridget part en week-end avec
Bridget
Daniel.
Bridget part en week-end.
Et là, il y a une magnifique scène dans la voiture décapotable de Daniel.
Voilà. Oui. Bah déjà, franchement, quand il arrive en bas de chez elle et qu'il lui fait le moteur et qu'il fait genre, il rugit avec le moteur, je me suis quand même très sexy.
Ah oui.
Oh, mais vraiment, oui, oui, oui. Il fait un truc de beauf avec sa
grosse beaufrie.
Sa bouche, bah, oui, genre comme si...
Ouais, mais avec, avec lui, ça passe. Ça
avec
passe
lui, avec ça passe.
Son...
Moi, déjà, les gens qui klaxonnent, les hommes, qui klaxonnent les femmes pour qu'elles montent dans la voiture, ça m'insupporte. Je déteste ça.
Donc, du coup... Triggered.
Non, mais vraiment, j'étais triggered. J'étais, ah non, hein, pas de
bah,
klaxon.
Moi, je trouve quand même que Daniel est moins connard dans le film que dans le
ah
livre.
Bah oui,
il est
tellement
plus sympathique, ah en fait. Bah oui.
Il est vraiment...
Mais parce
c'est
que
reste
c'est...
un connard.
Mais parce que
mais
c'est
beaucoup.
Hugh Grant, il a ce charme un petit peu...
Même dans les scènes.
Beauf. Enfin, il est moins beauf.
Il ne regarde pas le cricket, les gars.
Ouais.
Mais en même temps, un truc avec le cricket, depuis tout à l'heure, ça te...
Déjà, est-ce qu'on allait vraiment faire une scène sur ça?
Il lui envoie quand même des messages très... Enfin, il lui envoie les mêmes messages quand même que dans le livre.
Oui, oui, mais il y a moins de... Y a... Ça va plus vite quand même entre eux. Par exemple, le week-end, c'est limite lui qui propose dans le
oui,
film.
Ouais.
Normalement, elle rame
oh
pendant
Dieu,
des
elle
semaines
a galéré,
et des semaines. Elle achète des brochures de week-end de champêtre dans la campagne anglaise. Et
lui, il a
pas de maison. Le dernier mot, avant, pour les voyages, on regardait dans des catalogues. C'était un booking.
Fun fact. Oh, j'ai reçu le catalogue Escapade.
Escapade en campagne anglaise.
Non, mais donc voilà, il est quand même...
Ouais. L'exemple moins que con. Tu donnes là avec quand il lui malaxe le sang en regardant le cricket, on n'en est pas là dans le film.
Non.
Ouais,
non.
Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, Hugh Grant donne un peu cette classe.
Ouais.
Mais aussi.
Mais du coup, ça, c'est plus crédible aussi sur le fait qu'elle est à fond sur lui,
oui,
que voilà. Enfin, bah, tu puis... dis pas juste, il est dégueulasse ce mec.
Carrément. L'escapade à la campagne, ils font de la barque ensemble, il est super marrant.
En plus, ils ont des trucs en commun. Enfin, ils se marrent sur les mêmes trucs, quoi.
Exactement. Et petite référence à Orgueil et Préjugés de
tout
la BBC.
Fait.
C'est il
et
se
oui,
retrouve à l'eau avec sa chemise blanche
oui,
trempée. Voilà, comme Colin Firth.
Pendant ce temps-là, Colin Firth a un col roulé noir, donc c'est décevant pour tout le monde.
C'est quoi ce préjugé sur le col roulé?
Ah, j'adore les cols roulés, mais s'ils tombent dans l'eau, du coup, ça donne beaucoup moins d'effet qu'une chemise blanche.
Effectivement.
Et puis, genre, pendant ce temps, enfin pendant que du coup Bridget et Daniel s'éclatent sur le bateau, il y a Marc et Natacha qui bossent sur
mais qui s'emmerdent.
Mais pourquoi personne fait ça? Pourquoi ils emmèneraient des dossiers, des dossiers sur... Ah oui,
non,
la
mais...
doubleuse de Natacha est exceptionnelle.
Ah purée, faut vraiment que je regarde en VF.
C'est à mourir de lire l'accent qu'elle fait.
Ah, je vais regarder en VF.
C'est très très drôle.
Mais en plus, Natacha, à chaque fois qu'on la voit, elle est avec Marc, mais elle est jamais dans un environnement de travail. Et pourtant...
Elle
parle tout
le, temps. Tout
le temps de travail. Je me dis, mais elle a pas de vie, cette pauvre fille,
ouais,
c'est
ouais,
pas possible.
Mais si, mais
c'est
du coup,
c'est juste qu'elle veut le pécho et
ouais,
qu'elle passe par le...
Et puis, elle parle tout le temps de haut à Bridget, genre, elle fait « Quelle idée bizarre
!» C'est tellement ça.
C'est très belle imitation,
oui,
Victoire.
C'était spontané, là, c'est venu comme ça. Je ne la referai pas, mais oui, c'est super marrant, enfin. Et la VF vraiment participe aussi,
ouais,
je trouve, à l'esprit un peu drôle du film. Et comme tu vois beaucoup plus Mark Darcy... Ils ont un peu étoffé le background entre lui et Daniel Cleaver parce que dans le
oui,
livre, tu
oui,
sais qu'ils se détestent. Sauf que ils étaient juste genre camarades à Cambridge. Ils étaient dans la même école, ils s'aimaient pas, ils étaient un peu rivaux. Mais t'as
et
pas
là, dans le
non
film,
plus plus d'histoire
cool
que ça. Tandis que là, dans le film, t'as vraiment un background où t'as du coup Hugh Grant qui dit qu'il était le témoin de mariage de Mark Darcy et qu'aujourd'hui ils ne se parlent plus. Et
il s'est passé quelque chose.
Et il s'est passé quelque chose. Et Cleaver dit à Bridget, en fait, il m'a piqué ma meuf, quoi. Il a trompé ma fille.
Et là, c'est exactement Wickham,
ouais,
C'est ouais. Orgueil et préjugé.
Darcy.
Là, c'est exactement ça, puisqu'évidemment, on comprend que c'est l'inverse.
Bah, du coup, mais... quand on a vu Orgueil et préjugé, on se dit, je crois qu'il ment.
Bah, et même, quand tu vois Hugh Grant, son personnage, tu dis à quel moment Bridget, elle a vraiment cru. Elle est un peu naïve quand même.
Oui, ah bah, oui. Bah, elle je croit dire, tellement en l'amour qu'elle
bah,
se dit.
Elle est... dans le film encore plus teuteux oui, que dans le vrai. Livre.
Non mais là, il lui arrive des dire. Trucs t'es là genre non mais
c'était le next level du teuteux.
Non non mais
là il y a plus de limite hein. Enfin c'est
oui, je suis d'accord.
Oui, elle est vraiment
bah, assez bête. Au tout départ quand Mark est quand même très condescendant lors de la dinde au curry du premier de l'an, il sort un truc du style oh, et j'ai pas besoin qu'on me case avec une fille qui a une diarrhée verbale ou un truc comme ça, mais oui. Parce qu'en fait, elle ne s'arrête jamais.
Mais
elle
est d'ailleurs, cette scène est aussi rajoutée et aussi un parallèle à Orgueil et Préjugé.
Oui, à la scène du bal où
voilà,
il parle d'elle dans
son dos, parle d'elle dans son dos et elle entend tout.
Pardonner son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
Et dans, bien, évidemment,
c'est toi dans le générique.
Le générique.
Adapte-moi, bien sûr. Je crois que j'en ai même pas parlé dans l'épisode sur Orgueil et Préjugé, en plus.
Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça donne un peu plus de consistance à leur relation, quoi.
Ouais.
Il y a aussi plus de moments où je trouve Bridget se ridiculise dans le film. La soirée de lancement, elle fait
la soirée de lancement, c'est très drôle. Là, quand ils font un genre de gala pour le départ de Marc, enfin pas le départ mais je sais plus trop ce qu'il
ah
fait
non, c'est,
là.
C'est ses parents,
qui organisent ouais. quelque chose voilà.
De mariage.
Et elle fait aussi un genre de discours complètement raté qui enfin ouais. Là pour le coup c'est très très drôle.
Moi ça m'a fait vraiment beaucoup rire, c'est le soirée de la lancement du coup du livre événement de leur maison d'édition La Moto de Kafka. Et il y a pas mal de vrais auteurs en fait qui jouent
oui,
leur propre rôle.
Oui, Salman Rushdie, je disais mais OK enfin
c'est trop
drôle. Ah oui.
Et Barnes, je sais pas comment on dit, bref, t'as plusieurs auteurs anglais comme ça, et donc au début elle dit, donc le plus grand roman du plus grand auteur, et là elle regarde Salman Rushdie, elle dit, enfin...
Vous aussi ?
Vous aussi ! Et après elle dit, vous aussi, les vôtres sont pas mal.
Et elle finit par dire, le top 30 des auteurs contemporains.
Et Daniel qui pète une barre à côté, et évidemment à cette soirée, il y a Marc qui, là, lance son regard de braise,
ouais.
La regarde intensément, alors que bon...
Tu sens qu'il est mortifié pour elle, quoi.
Ouais mais
ouais,
il aime bien aussi
ouais. Quoi.
Et alors pardon mais moi dans ma vie ça m'arrive jamais quand je me ridiculise il y a jamais quelqu'un qui dit elle est adorable.
Genre non, tu ne sais pas.
Peut-être.
Tu ne sais pas. Y a
peut-être qu'au fond tu vois il y a des gens qui ne te le disent pas mais qui trouvent ça très mignon.
Appelez-moi.
Ton Marc Darcy t'attend au coin de la rue, Marianne.
Non mais c'est vrai qu'elle se ridiculise pareil, genre à un moment elle répond au téléphone en disant « Bridget Jones, déesse du sexe et machin, et c'est sa mère. » Mais qui répond
dit,
au téléphone comme ça ?»
Elle dit « Avec un homme incroyable entre ses cuisses. » Et après, c'est « Allô, maman, j'étais... » Mais qui décroche le téléphone en disant ça ?
Personne. Enfin, surtout que c'était quand même l'époque des téléphones fixes où tu ne savais pas qui
mais
t'appelait.
Ça pouvait être la banque.
tu ne décroches pas comme ça à un inconnu.
Bien sûr. Ouais.
Non, mais bon, c'est.
Elle était dans l'euphorie du moment.
Non, non, mais j'ai marqué pendant le film, personne ne répond au téléphone comme ça, voyons. Voilà.
Alors,
ça m'a choqué.
Ouais. Non, en tout cas, pour revenir aussi aux références à Orgueil et Préjugés, il y a vraiment, effectivement, que ce soit dans l'intrigue, mais aussi dans les dialogues. Genre, à un moment, ils disent quand même. Enfin. Il y a une vérité universellement
oui
reconnue, il s'est dit quoi. Enfin, ouais. Il y a plusieurs phrases comme ça qui sont vraiment
oh, bah,
tirées
il
directement
cache pas, hein, ouais,
d'Orgueil et Préjugés.
Ouais,
et surtout la déclaration d'amour de Marc Darcy.
Oui.
La scène du kiosque.
Voilà, qui est complètement rajoutée par rapport au livre, parce que dans le livre c'est beaucoup plus court. Et là elle lui dit oui, malgré votre mère ridicule, malgré vous votre ridicule, malgré tout, je vous trouve quand même pas mal comme vous êtes et tout.
Il dit ça en français ?
Non, il dit je vous aime bien tel que vous êtes.
Okay. Parce que et là, du coup, elle racontait à ses copines qui vont le dire devant lui.
Mais par contre, elle est contente, alors que Elisabeth Bennet, elle dit « Va te refaire foutre, Darcy
oui. !»
Donc c'est un peu la différence.
Elle sait pas, elle est en mode «
En fait, elle dit rien, elle fait Bridget, quoi. Elle dit rien.
Ouais.
Oui, parce qu'en fait, elle est tellement habituée aussi à sortir avec des connards, comme avec Daniel Cleaver, etc., que du coup, là, quand quelqu'un... lui dit je vous aime tel que vous êtes en mode t'as pas besoin de faire de régime malgré tes vices ton addiction à l'alcool et au club je t'aime enfin je t'aime bien
parce que c'est vrai que Daniel Cleaver il fait beaucoup de nagging en gros il lui met des compliments mais c'est des compliments où derrière il y a une insulte tout le temps
bah petit pervers hein petit pervers
voilà
des
donc,
familles hein.
Et c'est vrai que bah, du coup ça a dû la choquer quoi quand Marc Darcy lui dit en fait moi je t'aime bien comme t'es change pas. Elle a dû dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Malgré toutes les gaffes qu'elle fait. Après l'avoir vue à la télé, dans ce fameux épisode avec les pompiers aussi, où elle se ridiculise. Et là, franchement, la scène est horrible. Ouais. dans cette scène de, du film.
Oui, on lui demande en gros de descendre d'une... comment ça s'appelle ?
Une lance.
D'une rampe.
Une rampe.
D'une rampe.
C'est une rampe, ça ?
Ouais, je crois.
Je sais pas trop.
Moi, j'ai envie de dire un pôle...
un pôle GERS.
Un pôle GERS de pompiers qu'il y a dans les casernes.
Mais voilà. Si, je crois que c'est une rampe. Hein.
Bon, bah, elle doit descendre...
Un mât.
Attendez.
Le mât des pompiers ? Ça se dit ?
Bon, bref.
Elle doit descendre d'un truc droit. Et bref, et donc elle descend trop tôt, et ensuite le réalisateur il lui dit non, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Donc là, elle commence à remonter à la force des bras, c'est impossible. Hein,
elle a pas de bras, qu'on se le dise.
Bah non, mais moi je peux pas faire ça non plus, enfin, qui peut faire ça enfin,
bah non, personne.
Et bon, glisse, bref, elle arrive c'est... trop tard, il y a un énorme plan sur ses fesses,
où elle tombe sur le caméraman.
Elle atterrit fesse première sur la caméra, donc forcément, ça pose problème.
Ouais, ça c'est quand même très très rigolo, on va pas se le cacher.
Oui, et Marc, le premier truc qu'il dit, genre, j'ai adoré votre passage à la télé. Ah bah tu m'étonnes.
Oui, ça, mais ça c'est marrant. Donc t'as des scènes un peu marrantes comme ça. Et aussi le film, il joue aussi beaucoup sur l'humour des expressions aussi, parce que le montage, il est assez dynamique, assez cut. Ouais. Et du coup, des fois, t'as des personnages qui font des expressions, mais c'est à mourir de rire. Ils ont même pas besoin de parler.
Non, mais oui.
Juste en regardant leur tête.
La mère de Bridget.
Elle fait des expressions.
Elle
c'est
me faisait hurler de rire. Enfin.
Et d'ailleurs, parlons-en, la mère de Bridget. Là, ils ont quand même fait une intrigue un peu plus crédible. Hein,
oui, s'il vous plaît. Mais du coup, beaucoup moins drôle.
Bah, ouais, elle fait quand même une émission de téléachat.
Ouais.
Et le premier truc qu'elle fait, c'est le déshabit œuf. Est-ce qu'on en parle du déshabit œuf?
Ah oui.
C'est quand même la scène qui est aussi extrêmement drôle. Enfin.
Mais voilà. Ouais, mais bon.
C'est quoi un déshabit œuf?
C'est bah, quand elle pompe là, son truc.
Elle pompe.
Ah, très sexuel.
Ah oui.
Référence très sexuelle.
J'avais pas compris ce que c'était en fait.
Oh.
J'avais compris
le déshabit œuf.
J'avais compris la référence.
C'est au sexe, olé, olé.
C'est le mais en fait, j'avais pas compris à quoi ça servait cette chose. Ok.
Un déshabillé.
Ok, fort bien.
Mais ouais, mais oui. C'est moins drôle parce qu'elle sort. Enfin, elle sort.
Bah, elle sort avec son co-animateur.
Oui, voilà, avec le genre de.
Julianne.
Ouais,
qui est bronzée.
En cabine. Hein,
voilà, de façon.
Oui, c'est pareil, il est beaucoup moins élégant. Franchement, tu vois le Julianne, là, tu te dis.
Enfin, élégant, Rulio, on sait pas comment il est. Hein.
Ouais, mais Rulio, oui, ça se trouve, il a 25 ans, il est portugais.
Oui, tu peux l'imaginer un petit peu plus sexy, tandis que là, il fait un peu grand-père beauf aussi, quoi.
Exactement.
Bronzé.
Ouais, mais finalement, elle revient et c'est un peu touchant, la scène avec le père.
Ouais, oui.
Je trouve que c'est quand même plus crédible.
Ouais, moi, je la trouve plus touchante là parce que elle a fait un peu sa petite crise et elle revient et elle se dit, bah non, en fait, je vais être avec toi, Colin. Elle fait, oh, Colin! Pardon.
mais
elle est touchante.
Ouais, mais tu vois beaucoup moins les parents. Ils sont quand même, enfin, elle a une importance beaucoup moindre dans le film que dans le
livre. Bah ouais, bah de toute façon, ils ont pratiquement tout enlevé des parents pour.
Ouais.
Parce que sinon, tu fais un film de je sais pas combien d'heures.
Oui, là, c'est un film qui tourne vraiment autour du triangle amoureux entre Bridget, Mark et.
Oui, il y a plus
Daniel.
D'importance à ce triangle amoureux le livre est plus focus sur Bridget en elle-même.
Exactement, parce que là. Elle va n'importe où. Elle va d'ailleurs au dîner des mariés et fiers de l'être. Il y a Marc qui est là. Tu ne sais
c'est
pas
vrai qu'il apparaît quand même comme par magie.
Je me suis dit, mais d'où il est chez les amis de Bridget? Enfin, là, quand même, ça va loin. Enfin, ils ont vraiment le même cercle à tout point de vue. Enfin, comme c'est fortuit. Mais bon, après, voilà.
C'est pratique.
Mais ils ont quand même gambadé nus dans la même piscine quand ils avaient 5
fait.
Ans.
Hein, ouais, tout à fait.
Voilà. Ça, ils en parlent beaucoup aussi.
Et il le redit bien avec son regard coquin, là. Bridget a pataugé dans ma piscine toute nue quand elle avait 5 ans. T'as la chambre. Ok, Marc.
Ouais. Dis donc, je savais pas que j'allais avoir autant de kings sur Colin Firth autour de cette table. Mais,
enfin, Victoire, tu nous connais pas ou quoi?
C'était plus Team Hugh.
Oui.
Non.
Oh.
Bah, pas dans ce film-là, mais.
Mais dans la vie en général?
Dans l'absolu, oui.
C'est pas vrai.
Ah,
si.
Moi, je sais pas. Franchement, c'est tight. Hein.
Ouais.
Ah bah, pas moi du tout.
Non. Moi, depuis que j'ai vu Hugh Grant avec des lunettes en libraire dans Coup de Foudre à Notting Hill, il y a eu un avant, il y a eu un après, et maintenant, c'est lui. Voilà.
Moi, je peux pas choisir. Je peux pas choisir.
Oh non, moi, c'est Colin Firth all the way.
Je trouve que Hugh a un côté plus sexy, quand même.
Oui. Quand même. Bah, aujourd'hui.
Moi, j'aime bien les Anglais un peu coincés.
Aujourd'hui, Colin Firth a mieux vieilli.
Ah! Ah le débat reste ouvert.
Waouh.
Bon.
Et il y a aussi une scène culte dans le film qui a été complètement rajoutée par rapport au livre.
Le climax du triangle amoureux.
C'est la meilleure scène du film.
C'est la meilleure scène.
C'est tellement ça. Sur la musique de Jerry Halliwell.
It's raining men.
Cette scène est tout simplement grandiose. Et il faut savoir que quand j'ai vu du coup cette scène. En la revoyant ce week-end, j'ai dit mais c'est mieux chorégraphié que John Wick. c'était pour faire chier mon copain qui est fan de John Wick. Et surtout, j'ai regardé les anecdotes. c'était complètement improvisé.
Mais non,
la bagarre, c'est eux qui ont demandé.
Si, ils ont demandé à se battre. Et c'était oh, les pas garçons. Du tout. Voilà, c'était la testostérone. Et en fait, c'est complètement improvisé. Enfin, genre, c'était pas chorégraphié. Alors que moi, je me disais, oh, ils le font bien et tout.
C'était pour que ce soit plus réaliste. Sauf quand ils passent par la vitre, effectivement, où là, c'est des doublures qui le font. Ouais. Mais effectivement, et en même temps, c'est tellement drôle.
Mais le meilleur moment de cette scène,
lui, avec la musique.
Le meilleur moment de cette scène, c'est quand ils s'arrêtent de se battre pour chanter
avec les serveurs grecs.
Au restaurant grec.
C'est, moi, je pleure de rire à chaque fois quand ils ont
une bagarre.
Une véritable bagarre. Avec les, non, mais les serveurs grecs qui sont là, genre, allez, vas-y!
C'est trop,
tout est génial. Simplement incroyable.
C'est la meilleure scène du film.
Mais d'ailleurs, toute la BO de Bridget Jones est géniale. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est dans les meilleures ventes de 2001.
Encore une fois, très ancré dans les années 90.
Ouais.
Oui, mais
ça a donné la BO a donné les scènes cultes.
Exactement.
Le All by Myself et tout.
Oui. S'il y a pas cette musique-là, on n'a pas parlé de cette scène tout simplement incroyable.
S'il y a pas cette musique-là, je pense pas que cette scène devienne culte devenue quoi. Elle est géniale cette scène.
Oui, la scène du coup du générique qui est mondialement connue où on voit Bridget seule chez elle pour le Nouvel An. Où c'est la déprime et elle se met All by Myself et elle fait du lip sync
en pyjama c'est super,
en buvant du vin, mais c'est tellement incroyable, c'est un mood
c'est vraiment, c'est ça, c'est un mood.
Mais d'ailleurs on voit quand même beaucoup moins Bridget boire et fumer que mais dans le livre. On sent que
c'est un film. C'est un film. Je pense qu'il y a eu un petit recul de 96 à 2001, même si c'est pas énorme. Il y a peut-être eu.
En
petit...
2001, on a commencé à interdire les cigarettes dans les restos, dans les trains.
C'est ça. Donc oui. Ils se sont dit, on va peut-être se calmer sur les aspects qui posent problème. Et du coup, ça rend le film quand même un peu moins clivant.
Et pour info, Renée Zellweger ne fumait pas du tabac dans le tournage. Elle fumait des cigarettes. Ils disent herbacées, enfin.
Mais c'est comme ça dans
la weed, quoi. Enfin, genre.
Dans tout le.
Non, elle était pas foncée.
Elle était défoncée sur le tournage.
Non, mais c'est des trucs aux herbes. Mais c'est ça, à chaque fois que des acteurs fument des cigarettes, normalement, dans chaque film, c'est ça.
C'est des trucs à la vapeur. Enfin, ça fait juste de la vapeur.
Tu peux pas te faire
fumer
des vraies cigarettes.
Ah ouais, t'imagines.
La journée, si tu fais sans prise. Si tu fais sans prise.
Surtout si tu fumes pas
la cigarette qui est grillée au même degré pour que ce soit un raccord et tout, tu peux pas fumer des vraies cigarettes. C'est des fausses cigarettes qui donnent à chaque fois.
Incroyable.
Fun fact.
Bah imagine
fun
les fact. Acteurs ils fument pas, tu vas pas te mettre à fumer pour un rôle quoi.
Moi je me suis dit bon c'est comme les scènes d'amour, il y en a qui font, il y en a qui font pas hein. Enfin
non mais ouais, non Pascal quand on le fait c'est
les scènes d'amour
aussi hein. Bah dans la vie d'Adèle, ils le font hein. Ah oui.
Oui, si la vie d'Adèle.
La vie d'Adèle, c'est une exception.
Alors, pardon, mais la vie d'Adèle, ça a traumatisé les deux actrices cette scène-là.
Oui, mais j'ai pas dit que c'était bien, mais parfois ils le font.
C'est complètement du voyeurisme vu que ça dure 15 minutes.
Oui. C'est un autre débat.
Ouais, parlons pas de la vie d'Adèle.
C'est un autre débat, ouais. Ouais, mais non, donc là, pour le coup, oui, elle fumait pas des vrais clopes.
Tant mieux.
Fun fact.
Je suis contente.
Fun fact. Et encore un autre fun fact, le film fait très film de Noël, puisque ça commence au Nouvel An et ça se termine à Noël, et donc il y a de la neige au début et à la fin. Et il faut savoir qu'en fait, le tournage a duré 6 semaines et que c'était en été. Donc c'était de la fausse neige. C'était pas du tout de la vraie neige.
Donc c'était moins grave si elle courait en culotte sous la
neige. Oui, voilà,
c'est pas d'un problème.
Elle a moins donné de sa personne.
Voilà.
Voilà, exactement.
Le rhume n'était pas présent du coup après.
Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du film Bridget Jones. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise adaptation, Jeanne ?
Moi, je pense que c'est une bonne adaptation. Parce que on retrouve quand même l'humour et les punchlines qu'on retrouve dans le roman. Ça a été bien adapté. Il y a des choses qui nous ont choqué, par exemple le poids de Bridget, qui sont quand même un peu effacées ou plus cohérentes dans le film, je trouve. On parle de Colin Firth et de Hugh Grant dans le livre. Qui sont les deux personnages principaux, Colin Firth et Hugh Grant? Enfin, je trouve que tout est parfait par rapport au livre, donc non, très bonne adaptation de, je trouve en tout cas.
Et toi, Pascal?
Oui, moi, je trouve que c'est une très bonne adaptation aussi. Tout à fait d'accord avec toi, Jeanne. Voilà, il y a eu pas mal de changements. De coupes, de rajouts, mais je trouve que c'est vraiment pour le mieux. Et voilà, le casting est vraiment super. Et ça donne un film qui est devenu vraiment culte dans les comédies romantiques, en fait. Enfin, c'est pour beaucoup de monde, donc je trouve que c'est...
Mais en plus, apparemment, le film, du coup, il reprend des éléments du deuxième tome. Il fait un mix entre les deux premiers tomes de Bridget Jones. Et du coup, je me souviens pas très bien du deuxième tome. Il faudrait que je le relise pour voir quels éléments ont été repris. Mais oui. Et toi, Marianne?
Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que c'était nécessaire pour sauver l'histoire de faire des changements. Les changements qui ont été faits étaient les bons. Et ouais, ça donne un film qui est... C'est un classique du genre, quoi. Bridget Jones, tout le monde l'a vu. Et moi, je le revois toujours avec grand, grand plaisir. Donc, vraiment, une bonne adaptation.
J'espère que tu le regarderas en VF la prochaine fois.
Mais franchement, alors, j'ai jamais vu en VF, mais ça donne envie.
C'est franchement, on recommande pas souvent la VF ici. Et
moi
là,
de base
vraiment,
je me méfie tout le temps des VF, mais c'est peut-être un tort, hein. Des fois il faut le tester, hein.
C'est la bonne VF des années 2000.
Ouais, ouais, je pense que du coup ça apporte un petit piquant que... Ouais.
Alors, bah, la doubleuse de Bridget, elle donne tout aussi, hein.
La VO est très très drôle, la voix de Hugh Grant.
Moi je veux quand même
beaucoup.
Écouter la voix de Hugh et Colin en VO, enfin, hein.
C'est ça.
Je pense que je vais quand même regarder.
Non mais je pense que je vais tester la VF, ouais.
Bah d'ailleurs, encore un fun fact, pour se rester un peu dans son rôle et surtout s'entraîner avec son accent britannique, Renée Zellweger, elle parlait même en dehors du plateau avec l'accent anglais. Et du coup, à la toute fin du film, quand vraiment c'était fini, c'est la soirée, en gros, pour dire la soirée de clôture et tout, elle a parlé normalement. Et Hugh Grant, il s'est dit, mais pourquoi elle parle comme ça? C'est trop bizarre.
Mais c'est vrai que son accent est plutôt pas mal, parce que j'ai même pas tilté qu'elle était pas anglaise. Enfin, je savais pas qu'elle était américaine. Enfin, bon travail du coach d'accent.
Oui, bah vraiment, pour le coup, en plus, les Anglais, après que le film soit sorti, voilà, ils avaient beaucoup râlé avant et ils ont complètement arrêté de râler parce qu'ils ont trouvé que c'était très réussi, en fait, et qu'elle était une très bonne interprète pour le rôle. Donc, ouais.
Et toi, Victoire, toi qui es fan du livre?
Ah oui.
Bah, moi, je trouve que c'est une très bonne adaptation parce que de toute façon, tu pouvais pas faire une adaptation linéaire de ce livre-là. Effectivement, bon, là, c'est fortuit, effectivement, que Mark Darcy soit là partout. Mais en même temps, c'est vrai que ça rajoute le piquant, ça crée aussi un fil rouge tout au long du film. C'est vrai que moi, par contre, j'aurais mis les potards un peu plus à fond sur la mer parce que moi, comme Marianne, je la trouvais vraiment très drôle dans le livre. J'aurais aimé une scène où elle imite la princesse Diana. Franchement, je me suis dit, tu vois, t'aurais fait un petit ralenti où elle regarde vers le lointain. Ça m'aurait fait vraiment énormément rigoler. Mais bon...
Ouais, je suis d'accord.
Vous avez l'air un peu sceptique.
Je suis d'accord. Ça manque de maman de Bridget. C'est vrai.
Ça manque de maman de Bridget, ouais.
Moi, je trouve qu'on la trouve. Elle est bien dans le film. Elle
oui,
fait
moi,
rire
ça m'a pas manqué.
Non, je.
Oui,
je
mais elle fait un peu plus. Elle fait un peu plus coincée dans le film, je trouve, par rapport
oui,
au livre.
Oui, alors qu'elle est complètement
délirée.
Elle est déjantée dans le
livre. Tu dis, mais où est-ce qu'elle va s'arrêter? Enfin, je veux dire.
Clairement.
La réplique dans le livre où elle dit ton père croit que le clitoris est un
oh oui
est un insecte, je sais pas quoi, un coléoptère, mais moi j'ai pété une barre, enfin,
non, mais clairement
je bref voilà, chacun son humour, hein, mais j'ai trouvé ça très très drôle. Et oui, donc je trouve que c'est une très bonne adaptation. Et comme effectivement il y a les répliques cultes finalement qui sont ressorties dans le film, moi, ça me convient plutôt bien. Le film a eu, bien sûr, un énorme succès à sa sortie. Il n'avait qu'un budget que de 25 millions de dollars à la base. Donc, c'est pas énorme.
Hein. Non, c'est pas énorme.
Surtout pour... ils étaient quand même déjà bien connus, Hugh Grant et Colin Firth. Donc, finalement, tu te dis, bon...
Ils n'ont pas dû avoir un cachet si énorme que ça.
C'est ça. Et le film, au box-office mondial, a récolté plus de 280 millions de dollars. Ouais. Donc, voilà, plus de 10 fois... sa mise. En France, il a fait plus de 3 millions d'entrées, donc également gros carton. Et la franchise Bridget Jones, c'est devenu une trilogie puisqu'il y a eu deux films par la suite. Et c'est la première trilogie réalisée uniquement par des réalisatrices, donc où les trois films sont faits par des femmes. Et c'est surtout la seule trilogie de comédie romantique de ce nouveau millénaire.
Ah, il hein n'y en a pas d'autres.
Bah visiblement non, bah pas d'après les anecdotes.
On est tous
IMDb
en train de chercher.
Attendez, comment on peut la contrer?
On va la piéger.
Le film a eu aussi un succès critique puisque Renée Zellweger a été nommée meilleure actrice aux Oscars.
Dingue ça quand même.
Exactement.
C'est assez rare pour une comédie romantique.
Et pour ce rôle et aussi au Golden Globe, au BAFTA, donc au British Movie Awards, le film a aussi été nommé dans la catégorie meilleur scénario adapté. Un carton pour Bridget Jones. Bon, je pense que c'est l'heure du verdict. Est-ce que vous avez préféré le livre ou le film? Le suspense est à son comble. Marianne?
Le film.
Ouh,
surprise. On l'a pas vu venir.
Bah, surtout pour toi, Victoire.
Bah ouais,
le suspense est à son comble.
Bah, c'est pour ça, mais moi, je vais passer en dernière.
Ah là là, elle sait maintenir l'attention du spectateur.
Bah oui, pour moi c'est le film aussi, hein. c'est un de mes films cultes, y a pas à dire, le film est en VF 1000 fois.
Bah moi le film aussi.
Et toi Victoire ?
Alors, je peux vraiment pas choisir pour le coup parce que j'aime vraiment les deux d'un amour ardent. Pour insulter
On reste toujours dans les refs, ok ?
Est-ce que on arrivera un jour à nous arrêter ? Non, donc je pourrais vraiment pas choisir parce que évidemment le film est génialissime, franchement je pourrais le regarder chaque année avec le même plaisir sans problème, mais le livre ça m'a fait aussi tellement plaisir de le retrouver et vraiment c'est un peu comme retrouver une vieille copine, vous savez, retrouver un vieux livre oui. que t'as lu plein de fois quand t'étais ado et c'est un peu doudou franchement où tu te dis oh Bridget te revoilà.
C'est toi Bridget ou c'est ta vie depuis 15 ans? C'est ma copine Bridget.
J'ai cru que t'allais faire Dalida.
C'est toi qui c'est toi qui te caches dans le noir. Viens.
Gigi. J'ai vraiment cru aussi.
Ne me lancez pas sur Dalida, voyons.
Alors, c'est pas l'épisode où vous êtes le plus sérieuse. Mais donc voilà, je peux pas choisir, mais en tout cas, ça m'a donné envie de, bah oui, de revoir et de relire le deuxième, donc c'est plutôt positif, je dirais, mais lisez le livre quand même, enfin vraiment ça vaut le coup, c'est dans son jus, mais...
Comment tu te mouilles pas, Victoire ?
Non, regardez le film, hein, surtout.
Non, mais une abonnée sur Instagram, quand j'ai fait la story en disant que je lisais le journal de Bridget Jones, elle m'a dit « Le livre est nul !» Je me suis sentie un peu agressée.
C'était moi.
J'étais en mode « Oh,
non
!» Vraiment, tu trouves ?
Ne soyons pas extrêmes.
Non.
Non, mais le livre est une très bonne lecture d'été, et je dirais que le film est un très bon film de Noël, voilà.
C'est vrai ?
Deux saisons.
C'est beau.
Deux ambiances.
Mais c'est tout à fait vrai.
Bah oui, voilà. Bah,
moi, ça me ferait quand même rire de voir une version moderne de Bridget Jones.
Oui.
Parce que je pense que, déjà, les entrées, il n'y aurait plus le truc du poids, mais il y aurait du type like Tinder.
Oui, oui.
Ah oui.
Like Insta, vu.
Il m'a lâché 3 vues.
Voilà, enfin voilà, des trucs comme ça.
Ça serait tout aussi déprimant.
Ouais. Tout aussi déprimant, et nous, on serait plus dans le bain, quoi.
Oui. Ouais. Je sais pas. Parce qu'elle a une addiction au bingo aussi. Enfin,
en fait, il y a beaucoup de trucs quand même avec les chiffres. Donc là, ce serait les likes, les trucs.
On revient au même truc. Elle a beaucoup d'addictions. Elle a besoin de voir un psychologue.
Oui, mais c'est ça qui est marrant, enfin.
Non, moi, ça ne me fait plus rire à la fin. J'en avais assez. Je voulais qu'elle consulte. Oh
mais elle consulte ses amis.
Qui sont de très, très mauvais conseils clairement.
Bon. Maintenant qu'on a fini de parler de Bridget Jones, c'est le moment de passer à nos recommandations. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de journaux de personnages féminins ? Pas Anne Frank, s'il vous plaît. De comédie romantique british, de Hugh Grant ou Colin Firth. Que recommandez-vous ce mois-ci, Pascal ?
Du coup, moi, je vais recommander des comédies romantiques british avec Hugh Grant. Je pense que je ne suis pas la seule, mais voilà, donc...
je crois que c'est une catégorie en soi, ouais.
Dans mes préférés, évidemment, Coup de foudre à Notting Hill.
Ça m'a changé.
Love Actually, quand même. Il joue Premier ministre avec sa danse.
J'aime pas Love Actually. Oh, la bombe.
Oh, non, mais alors là...
Oh, mon Dieu.
Attends, t'aimes pas Love Actually, mais tu aimes About Time, qui est une bouse.
Pardon.
Victoire, il est génial.
Il était temps, j'adore, il était temps.
Oh, vous deux, là? Non, au cachot.
Au cachot, il était temps, j'adore ce film.
Il est génial, ce film.
Bref, mais
je conseille, il était temps, voilà.
Ce film trigger de ouf, pour le coup, mais...
Je comprends pas pourquoi, il est super.
Parce qu'il la suit partout, il est complètement creepy, le personnage principal.
Ah, je trouve que c'est un stalker, mais dans le temps.
Complètement. Je le déteste.
C'est un bon stalker.
Bon, mais c'est quand même très... Moi, je trouve ça très mignon. Bon, bref. Et dernier, un petit bonus, quand même, recommandation, mix Jane Austen, Hugh Grant. On l'a cité tout à l'heure, Sense and Sensibility. Donc, Raison et Sentiment, de 95 aussi. Film où il y a aussi Emma Thompson et Kate Winslet.
Oui, oui.
Voilà, donc...
C'était des bons crus, hein, ces années-là.
C'était des bons crus, donc là, c'est quand même un
quoi,
mix
t'as quoi contre
de
la future Dakota Johnson en...
En persuasion.
En persuasion.
Mais rien du tout. Bon, je vais pas dire ce que j'ai pas dit.
Voilà. Jeanne ?
Et ben du coup je vais continuer dans cette lancée de comédie romantique avec Hugh Grant en recommandant 4 mariages et un enterrement puisque c'est un autre scénario de Richard Curtis qui est quand même le scénariste de comédies romantiques qui sont ouais.
ultra drôle, je trouve. Enfin, on reconnaît bien sa patte, que ce soit dans Bridget Jones ou dans.
Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs en ce moment là? Ça fait longtemps qu'il a rien sorti.
Bah écoute, je l'ai appelé dimanche.
franchement, booste-le. Moi, je l'ai marre. Il y a plus rien qui sort.
Il a fait Good Morning England aussi.
Oui, ah, j'ai un film préféré. Qu'est-ce qu'il est bien ce film. Bah écoute, il se repose. Il est dans sa maison.
Bah oui, mais bon, on a tout.
Voilà.
Reviens, Richard.
Donc du coup, 4 mariages, un enterrement, qui est sorti en 94 avec Hugh Grant et Andy McDowell et Kristen Scott Thomas, et qui est réalisé par Mac Newell. Et ce qui est drôle, c'est que du coup les rôles sont inversés par rapport à Bridget Jones, puisque c'est quand même un peu Hugh Grant qui cherche le grand amour, et avec sa bande de copains ils vont de mariage en mariage, ils essaient de trouver un peu le grand amour, et c'est que des punchlines, c'est de l'humour. Et donc mention spéciale aussi à la VF, qui est fantastique, que j'aime beaucoup, et encore plein de citations à faire.
Mais Mike Newell, c'est le réalisateur du Cercle littéraire.
Harry Potter 4.
Oui, et du Cercle littéraire de Guernesey.
Ouais. Ouais. Et bah alors, du coup, ça n'a rien à voir avec ce film, puisque là, il est vraiment bien. En toute objectivité.
Ça balance.
Et non, et surtout, il y a quand même une scène, donc je spoil pas, il y a un enterrement, c'est dit dans le titre, et cette scène est bouleversante. Il y a un discours qui est repris d'un poème qui est bouleversante. À chaque fois, je tire une petite larmiche, et enfin voilà, je vous le conseille, il est génial. Et sur une autre note, bien sûr, lisez Orgueil et Préjugés. Voilà.
Évidemment, si c'est pas fait.
Voilà.
Si ce n'est pas encore fait, oui, lisez-le.
Alors, moi, pour le coup, les recos, rien à voir avec ce qui vient de précéder. J'étais encore en colère quand je les ai choisis. Et donc, du coup, j'ai choisi deux séries anglaises faites par des femmes qui, elles, sont vraiment hors normes, entre guillemets. Je déteste cette expression, mais enfin, voilà. Donc, la première, c'est Miranda, qui est une mini-série BBC qui était de 2009 à 2015. Et alors, c'est vraiment une mini-série, c'est-à-dire il y a 6 épisodes par saison, je crois, et ça dure 20 minutes. Donc vraiment, il y a de quoi tout enchaîner en très peu de temps. Série humoristique, Miranda Hart, c'est sur sa vie. Et donc, c'est quand même une femme qui mesure 1m85 et qui est en surpoids depuis son enfance, en gros, hein, depuis son adolescence, voilà. Et donc, mais en fait, au lieu d'être mal dans sa peau, à vouloir changer, etc., elle en tire vraiment force. Dedans, il y a Sally Phillips, qui est très drôle, qui joue son amie très poche, huppée, un peu middle class, un peu haute et tout, qui est vraiment à mourir de rire. Donc ça, vraiment, je conseille. Si vous devenez fan de Miranda Hart à travers cette série, je conseille aussi son livre Is It Just Me. Je pense pas que ça existe en VF. Enfin, je pense pas que ça a été traduit en français.
Ça me dit rien comme ça.
Et qui raconte, c'est un peu sa biographie depuis ses années d'internat dans la campagne anglaise. C'est vraiment à mourir de rire. Et la deuxième série que je recommande, c'est My Mad Fat Diary. En français, c'est Journal d'une ado hors norme, qui est une excellente série. Donc, c'est une adaptation d'un livre de Ray Earl, le titre en anglais, c'est My Fat Mad Teenage Diary. Et donc, ça se passe en 96, l'action, la même année que donc, la publication de Bridget Jones. Et donc, c'est une jeune fille de 16 ans, Ray, qui pèse 105 kilos, qui quitte l'hôpital psychiatrique dans lequel elle a été internée pendant quelques mois. Et donc, en sortant, en fait, on dirait que, enfin, voilà, avec le thème et tout, on se dit, ouais, c'est pas une comédie, c'est hilarant. C'est vraiment très drôle. Et donc, elle retrouve une amie à elle. Elle s'était un peu éloignée d'elle. Et elle la retrouve et elle s'intègre à son groupe d'amis. Des mecs assez genre cool, populaires, etc. Et, tout. Et donc, on voit... Enfin, c'est vraiment très intéressant sur un plan psychologique, la grossophobie de la société dans laquelle elle vit. Tout. Parfois, c'est bouleversant. Il y a des scènes qui me font pleurer. Ouais.
C'est vraiment une bonne série.
C'est très, 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 très bien. Donc, voilà. Ça me semble important de préciser qu'il y a des séries comme ça qui existent et qui ne se moquent pas des gens qui sont en surpoids.
Oui. Et bonne recommandation. Et tant mieux, ouais. La société évolue, c'est chouette.
Si je puis me permettre, j'ai eu un éclair quand elle a parlé de séries. J'aurais peut-être une autre série à recommander dans le genre trentenaire à Londres dont on suit les tribulations et qui devrait aussi aller voir un psy, c'est Fleabag.
Oh purée.
Voilà, je me dis, cette série, donc c'est deux saisons de Phoebe Waller-Bridge avec Phoebe Waller-Bridge, c'est fantastique.
Avec un pasteur aussi.
Avec un pasteur dans la saison. Voilà, c'est elle a son père, elle a des problèmes avec sa sœur, avec son père, avec sa belle-mère, qui est fantastique. c'est drôle, c'est émouvant. Je conseille fortement, fortement.
Je n'ai toujours pas regardé Fleabag. Ça.
C'est ouais, fantastique.
C'est très sympa.
Et Miranda, t'aimerais peut-être parce que Miranda, elle fait que parler au spectateur en dans Fleabag, en cassant le quatrième mur.
Ouais.
Et franchement, c'est hyper marrant. Mais Fleabag, ouais, c'est exceptionnel comme ça.
Voilà. Et donc, il lui arrive que des choses improbables aussi. Elle a également des addictions. Elle a des soucis, mais elle est tellement drôle. Que des punchlines ouais,
très
également.
Voilà.
Ok. Alors moi je n'ai qu'une reco, j'ai l'impression de pas avoir travaillé du coup. Mais en gros, je recommande une série aussi sur Netflix qui s'appelle Valeria et qui est une qui est une adaptation des romans éponymes de Elisabeth Benavente, donc qui est espagnole. C'est une série espagnole et c'est un peu entre Sex and the City et Bridget Jones, ce sont des trentenaires à Madrid. Qui, quatre amis qui ont chacune des situations différentes et qui vivent des tribulations professionnelles, personnelles, sexuelles.
avec l'accent.
Très bonne série pour réviser son espagnol. Eh oui.
Oui, bah, moi je ne parle pas un mot d'espagnol, mais en plus c'est une série donc, développée par Maria López Castaño, donc une femme en plus, et c'est vraiment très rigolo, il y a plein de passages où parfois c'est un peu rocambolesque, mais des fois tu peux te reconnaître vite fait dans des situations, c'est marrant.
Je connais pas.
Non, ça va, je trouve que c'est assez réaliste. Pour
oui,
le coup,
c'est assez réaliste,
assez crédible.
Et c'est assez, assez marrant, assez frais, il n'y a que 8 épisodes de genre
30
minutes.
On attend la saison 2. Hein.
Qui sort bientôt le 13 août.
Ah
2021.
Intéressant.
Voilà, donc j'ai plutôt hâte de voir la suite. Et voilà, si vous aimez comme ça les tribulations de femmes. Et en plus, pour une fois, ça se passe pas en Angleterre ou aux États-Unis. Donc,
ouais, c'est cool que ça soit l'Espagne.
Ouais, oui. Ça change. Voilà. C'est donc la fin de cet épisode. Merci à vous trois d'être venus parler de Bridget Jones. Même si vous n'avez pas aimé le livre. Vous ne viendrez plus.
Mais on a adoré le film.
On sera plus invités.
Pas grave, je vous pardonne quand même. L'ado en moi quand même
souffre.
Moi, c'est comme quand Pascal a dit qu'elle aimait pas les quatre filles de Dr Marsh, hein, ça m'a fait.
Oh, j'ai pas dit que j'aimais pas.
Si t'as enfin, dit moi, que c'était un peu chiant.
Par contre, j'ai dit que je n'aimais pas Mary Poppins. Ça, oui, je le répète.
Le film ?
Non, le livre.
Oui, peur. Mais le livre, il était pas ouf.
Voilà. Les quatre filles de Dr Marsh, t'aimes pas le film ou le livre ?
Le non, livre. Mais je trouvais que le livre était parfois un peu long. Voilà.
Non.
Bon, écoutez, chacun son avis.
Ne relançons pas les débats enflammés.
On ne va pas faire le procès de Pascal. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez retrouver Adapte-moi si tu peux sur Facebook, Twitter et Instagram et aussi sur toutes les applications de podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, à bientôt. Salut.
Salut.
Salut.